Europe Matin, le 5-7. Simon Rubin.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. 4h57, lundi 26 octobre, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Et avec moi, Omblin Roche.
Bonjour.
Et Paul Lassène.
Bonjour.
Alors lundi 26 octobre, le lendemain du dimanche 25. Et qu'est-ce qui se passe le 25 octobre?
Je vous vois venir.
Il se passe ça. Eh oui. Le bouchon qui pète
attention
pour Paul Lassène. Qui a fêté son anniversaire hier.
Absolument.
Et la grande famille du 5-7 est ravie de le fêter avec vous.
Eh bien, merci pour
et
cette année en plus.
J'invite les auditeurs à vous faire plein de bisous virtuels.
Ah oui, virtuels.
25 ans, quand même.
Sur Twitter, 25 ans.
Ben non, non, je passe une décennie.
Et oui. On dira pas laquelle. Dans l'actualité, ce matin, outre cet anniversaire, actualité moins légère, évidemment, on parlera des chiffres du coronavirus qui n'en finissent pas d'augmenter. Et puis de ces produits français retirés des rayons de certaines enseignes au Qatar. Et puis des agences de voyage au Koweït qui suspendent des réservations de vol vers la France. Et oui, ce matin, c'est le boycott de produits français dans quelques pays musulmans après les récentes déclarations du président de la République sur l'islam et sur le droit de caricaturer. Situation diplomatique tendue également avec la Turquie. On en parlera dans vos journaux. Alors Paul, au-delà de l'anniversaire, quoi de neuf sur les internets?
Eh bien justement Simon, cette affaire de boycott a des conséquences sur les réseaux sociaux, des sites internet français et des comptes Facebook et Twitter ont été piratés hier et cette nuit encore par des hackers. Le président Macron est lui aussi visé par des attaques sur les réseaux sociaux. Je vous en parle dans 45 minutes.
Omblin ?
Oui, de la musique, une partition pimentée. Ils se sont enfermés pendant plus d'un mois dans un manoir sur les hauteurs de Los Angeles en 1991 pour enregistrer l'un des albums les plus importants de leur carrière. L'histoire de Blood Sugar Sex Magic des Red Hot Chili Peppers.
Les Red Hot. Ah bah oui. On pourrait la laisser tout le long, celle-ci.
On va l'écouter plus longtemps tout à l'heure. Ouais.
Ce sera 6h10.
Merci.
À tout à l'heure. Sommes-nous en train de nous rapprocher d'un confinement? C'est l'un des sujets du jour. On en parlera avec mon invité à 6h40. La déprime, la dépression, les doutes, la perte de repères, ça aussi c'est une conséquence du coronavirus. Ce sera notre rendez-vous à 5h40 avec Antoine Pellissolo, psychiatre. Et puis à 6h20, mon invité inattendu pour parler de Donald Trump et de ses discours, de sa façon de parler, qui vous allez voir est assez étonnante. Le programme pour ce matin, vous l'avez désormais. Bonjour Laurent Cabrol.
Eh bien bonjour Simon et bonjour à tous chers amis, nous allons vivre une journée encore marquée par les pluies. Alors il est une perturbation qui s'en va, il en est une autre qui arrive. Bon, grosso modo tout le monde aura son petit arrosage, y compris le bassin méditerranéen, surtout ce matin. Les températures elles sont à la baisse, hein. 11 à Belfort, 14 à Toulouse et 15 à Paris, pas plus.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Simon Rubin.
Bon réveil à vous tous et à vous toutes. La journée démarre et on écoute ensemble le monde changer. Premier journal avec Jérôme Lacroix. Bonjour.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Il est 5h.
On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé.
Les médecins sidérés, la deuxième vague est là et elle frappe fort. Plus de 50 000 nouvelles contaminations rien que sur la journée d'hier. Comment l'expliquer? A-t-elle été mal anticipée? Explication dans un instant. Dans ce journal, le président turc met en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron deux fois en moins de 48 heures après que le chef de l'État a annoncé que la France ne renoncerait pas aux caricatures. Des appels au boycott de produits français sont lancés dans certains pays musulmans. Et puis la cure de jouvence de Mario Bros et d'autres. En fin de journal, on vous raconte les versions 2020 de ces monuments du jeu vidéo sortis il y a 10, 20 ou 30 ans. Des moutures modernisées pour la plus grande joie des joueurs nostalgiques.
Après ce journal, la page des sports avec Lénaïque Monnier, le pressing, l'essentiel de l'actu dans la presse et puis les doigts dans l'assiette. On ira dans le Calvados. 5h01, bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
52 000 cas supplémentaires de Covid-19 décelés ces dernières 24 heures. Nouveau record du nombre quotidien de contaminations en France. Les chiffres continuent d'inquiéter alors que près de 2/3 de la France est sous couvre-feu.
La deuxième vague est bien là, mais elle n'était pas attendue si virulente. Anne Le Gall, comment expliquer une telle ampleur?
Eh bien d'abord, sans doute qu'avec les masques, les tests, une meilleure prise en charge des malades, une forme d'insouciance s'est installée dans l'esprit des Français cet été. Ensuite, même si le virus circule activement chez les 20-30 ans depuis le mois de juillet, ça ne se voyait pas, ils n'étaient pas malades. Les hôpitaux ont pu souffler, mais le virus s'est quand même propagé. Pour le professeur Gilles Pialoux, qui dirige le service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon, tout cela peut expliquer une certaine sidération face à cette deuxième vague.
On est surpris à la fois de son intensité naissante et à la fois du fait qu'elle est beaucoup plus précoce que ce qu'on a imaginé. C'est-à-dire que, mais ça, c'est probablement des erreurs politiques d'avoir sous-estimé notamment le poids de la rentrée. Je parle de la rentrée scolaire, mais de la rentrée étudiante aussi, qui a probablement eu un facteur d'accélération du processus de diffusion du virus chez les plus jeunes.
Et enfin, la météo pourrait aussi expliquer le sursaut actuel de l'épidémie. Plusieurs experts l'évoquent. La pluie et le froid début octobre ont poussé les Français à rester en intérieur. Or, on le sait, les lieux confinés favorisent la transmission du virus, surtout s'ils sont mal aérés.
Et le nombre de malades en réanimation continue lui aussi de progresser.
2575 personnes, indique Santé publique France, pour une capacité totale pour l'heure de 5800 lits, capacité qui pourrait toutefois être portée à 7700 en 15 jours, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Une épidémie particulièrement galopante dans les Hauts-de-France. 7 des 10 communes où le virus circule le plus sont situées autour de Lille, Roubaix, Tourcoing, Ouatrelose. Environ 1000 cas pour 100 000 habitants, 4 fois plus que la moyenne nationale. Alors pourquoi une telle flambée ? Explication Maximilien Carlier.
Tout a commencé, non pas à Lille, selon plusieurs spécialistes, mais au Touquet, sur le littoral. 80 étudiants lillois contaminés juste avant la rentrée scolaire. Bertrand Legrand, secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français.
Ce cluster du Touquet a été le point de départ de l'explosion dans le Nord-Pas-de-Calais, ça c'est très clair.
Car le virus s'est diffusé ensuite à leur retour, partout dans la métropole lilloise. Les soirées en appartement, le laisser-aller dans les gestes barrières. Et quand ça touche les plus précaires, comme par exemple à Roubaix ou à Tourcoing, ça devient incontrôlable.
Ces familles modestes, en fait, elles vivent un grand nombre dans des petits appartements à 7, 8, 9. C'est une catastrophe, parce que du coup, forcément, ils se le passent tous les uns les autres. Et à ce moment-là, en plus, ils sont dans des logements collectifs, donc forcément, ça se propage de voisin en voisin.
Autre facteur aggravant pour Mathieu Calafiore, médecin à Ouatrelot, c'est la gestion du Covid par Martine Aubry, début octobre.
La maire de Lille s'était félicitée d'avoir obtenu un report des mesures justement permettant de limiter la propagation. Je pense qu'on est en train de payer une partie de ce report-là maintenant, clairement. Tout n'a pas été fait en temps et en heure pour essayer d'éviter ça.
Et selon ce spécialiste, le couvre-feu ne changera pas grand-chose dans l'immédiat. Il a été mis en place bien trop tard.
Et puis le coronavirus, on en parle dans les journaux. Et puis aussi avec mon invité, 6h40, le professeur Bruno Mégarban, chef de service de réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière. On va parler de cette deuxième vague. Qu'est-ce qu'on a raté pour en arriver là ?
Deuxième vague qui touche aussi nos voisins européens. Situation jugée extrême en Espagne où les autorités décrètent l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois jusqu'à début mai. Couvre-feu dans tout le pays, sauf aux Canaries, de 23h à 6h du matin. Restrictions également renforcées en Italie. Cinéma, théâtre, salles de gym sont fermées à partir d'aujourd'hui et pour 4 semaines. Bars et restaurants doivent arrêter le service à 18h. Les écoles restent ouvertes, mais 75% des cours des lycées et des universités auront lieu en ligne.
5h05 sur Europe 1 et le conflit s'aggrave entre la France et la Turquie après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a publiquement mis en cause la santé mentale d'Emmanuel Macron.
Deux fois en moins de 48 heures, samedi d'abord, puis hier, lors d'un discours télévisé.
Ces derniers temps, le président français est ébranlé. Il est obsédé par Erdogan, jour et nuit. Avant toute chose, regardez-vous et regardez où vous allez. J'ai déjà dit tout ça hier à Kayseri. C'est un cas mental. Il a donc vraiment besoin de subir des examens.
Des propos qui ont entraîné des appels sur les réseaux sociaux au boycott de plusieurs produits français. Des fromages, des confitures, des produits cosmétiques sont ainsi retirés des rayons des magasins au Koweït ou encore au Qatar.
Le Quai d'Orsay demande à ce que cessent ces boycotts. Emmanuel Macron a lui-même tweeté hier soir « Rien ne nous fera reculer, jamais. Nous respectons toutes les différences dans un esprit de paix et défendons le débat raisonnable », a écrit le chef de l'État en français, en anglais et en arabe. Fait rarissime, la France a rappelé hier son ambassadeur en Turquie.
Les attaques du président turc unanimement condamnées en France qui font suite au plan récemment présenté par le gouvernement français sur le séparatisme, mais aussi parce qu'Emmanuel Macron a promis que la France, je cite, « ne renoncerait pas aux caricatures », propos tenus lors de l'hommage nationale à Samuel Paty mercredi dernier.
Et justement, 10 jours après l'assassinat du professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, la communauté musulmane souffre d'être montrée du doigt, notamment les jeunes.
Exemple à Nantes, où certains d'entre eux tentent malgré tout d'appeler à l'unité de la nation. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
Le malaise dans le quartier de la Bottière à Nantes, comme après chaque attentat islamiste, beaucoup ici se sentent pointés du doigt, comme si l'ensemble de la communauté musulmane était coupable de la décapitation de Samuel Paty, Hamza, 16 ans.
Pourquoi accuser tous les musulmans alors que c'est un musulman qui a fait ça? Des fois, je ne me sens pas très français à cause des regards. Il faut communiquer pour vivre ensemble. Sinon, il n'y a pas d'unité. On n'avance pas. On est bloqué.
Dans ces périodes de forte tension, certains font tout pour mettre de l'huile sur le feu, fulmine Adama, d'origine mauritanienne. Ne tombons pas dans le piège de la division.
Je suis inquiet par toute cette ambiance. On voit bien que ça se sépare. Ce qui est négatif, c'est quand les gens ont une certaine haine. Ces gens qui font ces actes barbares, ça les arrange bien qu'il y ait une sorte de guerre civile. C'est peut-être ça leur objectif. Bah, en tant que Français, dans ces moments, il faut qu'on soit unis. On est avant tout des citoyens français. On est là pour le pays, on est là pour faire avancer les choses. Continuons à nous souder et à lutter ensemble. C'est important de se retrouver autour de la patrie. On est tous du même pays.
Dans le quartier du Breil, une jeune fille désabusée s'interroge. Serons-nous vraiment des Français comme les autres un jour? Je n'y crois plus. Nantes, François Coulon, Europe.
D'où l'on reparle de la réforme des retraites ou encore de l'assurance chômage. Tant de projets de l'exécutif mis en suspens par l'épidémie de coronavirus. Où en est-on aujourd'hui? Jean Castex reçoit les partenaires sociaux à Matignon pour un point sur le calendrier. Pas moins de 17 thèmes à l'ordre du jour, Olivier Samin, mais les échanges vont surtout porter sur la réponse à apporter à la crise sanitaire.
Quand le rendez-vous pour cette nouvelle conférence avait été pris, c'était au mois de juillet, personne n'imaginait un retour aussi violent de l'épidémie, obligeant le gouvernement à mettre 46 millions de Français sous couvre-feu. Autant dire que l'agenda qui avait été bâti à l'époque risque d'être escamoté. On parlera sans doute un peu des nouvelles formes de travail, du partage de la valeur ou de l'évolution de la protection sociale, mais c'est sur les réponses à la crise et sur le sort des réformes actuellement dans les tuyaux que le gouvernement est d'abord attendu. Réponse à la crise, il y a des choses qui commencent à porter leurs fruits, dit le ministère du Travail. L'aide à l'embauche des jeunes notamment et l'apprentissage. Sur les réformes, là, ça risque de chauffer. Jean Castex va-t-il maintenir l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'assurance chômage le 1er janvier prochain, alors que les syndicats s'y opposent farouchement? Quant à la réforme des retraites, l'échéance est un peu plus lointaine, mais la question du financement va très vite revenir avec son corollaire, travailler plus longtemps. Et là aussi, sujet explosif.
Aux États-Unis, le scrutin présidentiel approche. C'est mardi de la semaine prochaine. Le camp Biden affirme que Donald Trump a capitulé face à l'épidémie après les déclarations ambiguës hier sur CNN du chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, qui a affirmé que le camp Trump, je cite, n'allait pas contrôler la pandémie, mais contrôler le fait d'avoir un vaccin. Un aveu d'impuissance qui disqualifie Donald Trump, selon ses opposants.
5h09 sur Europe 1 et une séquence nostalgie pour conclure ce journal. Et ces quelques notes vous rappellent peut-être des souvenirs.
Ça vous parle,
ah oui, un peu.
Le thème de Mario Bros, l'un des jeux vidéo les plus connus du monde. La première version sortie sur Nintendo en 1985, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires. Alors comme plusieurs autres franchises, le célèbre plombier, sauteur et moustachu va bénéficier d'une cure de jouvence. Oui, ça sert à combler la nostalgie des joueurs, mais c'est aussi, il faut le dire, bon pour le business, Clément Le Saffre.
It's me, Mario!
C'est le plus célèbre des héros de jeux vidéo. Mario vient de fêter ses 35 ans, un peu jeune pour un lifting, mais Nintendo a remasterisé 3 jeux du plombier moustachu, notamment Super Mario 64, sorti en 1996 et très aimé des fans, mais plus du tout accessible de nos jours car la Nintendo 64, tout comme les autres vieilles consoles, n'est plus en vente. Super Mario, mais aussi Final Fantasy, Mafia, Resident Evil, tous ces jeux des années 90-2000 ont bénéficié d'un remake cette année. Graphisme modernisé, nouveau moteur de jeu, scénario enrichi, c'est un processus technique complexe, mais qui reste moins coûteux que la création d'un nouveau jeu. Alex Cox, responsable créatif du remake de Mafia.
Faire le remake nous a pris 2 ans. Pour un jeu original, ça aurait pris 1 ou 2 ans de plus. En faisant un remake, on apporte un jeu avec une superbe histoire à un nouveau public et ça nous coûte beaucoup moins cher. C'est un gros jeu produit pour le coût d'un plus petit jeu.
Des jeux moins chers, mais pas moins lucratifs. Un remake permet de séduire à la fois les joueurs de la première heure et les plus jeunes qui n'ont pas connu les jeux de leurs parents. Un phénomène qui va s'amplifier l'an prochain. On attend déjà des remakes de Prince of Persia et même de Pokémon.
Clément Le Saffre.
C'était le journal de Jérôme Lacroix. Prochain rendez-vous rendez-vous avec l'info 5h30. Ce sera avec Émilie Dez.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et bonjour Lénaïc Monnier.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Le journal des sports et la bonne affaire de Lyon hier soir.
Ouais, en conclusion de la 8e journée de Ligue 1, large victoire 4-1 face à Monaco. Avec ce succès, Lyon remonte à la 6e place du championnat à 3 unités du podium. Et il faut absolument s'y accrocher, comme nous l'explique Anthony Lopez, le gardien.
Ouais, on sait que pour atteindre les places européennes, enfin, la Ligue des Champions. On sait qu'on a besoin d'enchaîner les victoires, de faire une série pour pouvoir s'installer définitivement sur ces trois premières places. Voilà, on a eu de belles opportunités qu'on a su concrétiser tout de suite et poser énormément de problèmes à cette équipe de Monaco, même s'ils ont eu quelques situations. Mais voilà, dans l'ensemble, tout le monde a fait le travail. Tout le monde a été décisif à sa manière dans ce match. On a eu beaucoup d'opportunités pour pouvoir mettre le cinquième, voire peut-être plus. Mais voilà, l'essentiel. Elle est là, les trois points sont là, une belle victoire, tout le monde a fait le travail, c'est ce qu'il faut retenir.
Anthony Lopez avec Anthony Perel pour Europe 1. Prochain match pour l'OL, c'est à Lille dimanche soir. Nouveau test avant le derby contre Saint-Etienne, ce sera dans 2 semaines.
Et Saint-Etienne où justement ça ne va pas fort.
Avec ce revers à Metz 2-0. En revanche, première victoire à fêter pour Reims qui a battu Montpellier 4-0. Il y a eu un partout entre Nice et entre Nice et Lille. Victoire de Strasbourg 3-0 hier face à Brest.
Le maillot cyclamène pour Arnaud Desmarais. Et oui, on prend la direction de l'Italie.
Où vient de s'achever le Giro avec ce maillot de meilleur sprinter, donc pour le coureur français, évidemment ravi.
Tout s'est démultiplié, c'est vraiment le terme, parce qu'on est arrivé ici, on avait déjà 10 victoires, mais tout le monde avait le même objectif, on continue. Et on a gagné la première, et on s'est dit on continue. La deuxième, on continue. La troisième, on continue. Finalement, on va revenir avec 4 victoires. Le cyclamène devant Peter Sagan, c'est vraiment le plus coriace que je pouvais avoir pour ce maillot par points. Et donc, c'est chose faite.
Arnaud Desmarais, le sprinter de la Groupama FDJ avec Axel May pour Europe 1.
Autre course, le Vendée Globe, le départ c'est dans 13 jours.
Et la grande aventure approche pour ces marins qui vont se couper du monde. Cette longue période de solitude va même démarrer plus tôt que d'habitude puisque les skippers vont devoir observer une période d'isolement. Covid oblige, confinement mode d'emploi avec Charlie Dalin.
Moi je vais m'exposer vraiment au minimum, je vais faire une partie de confinement en Bretagne et après arriver assez tard finalement au Sable d'Olonne avant de partir. Voilà, je réfléchis à comment est-ce que je vais faire mes courses, avec qui je serai dans cette maison pour être qu'il y ait le moins de monde possible, alors que je vois ma famille je pense un certain temps avant aussi. Même mon fils, je lui dirai pas au revoir le jour du départ, je lui dirai au revoir plusieurs jours avant, c'est particulier.
Charlie Dalin qu'on verra à bord du monocoque à Pivia, il répondait à Corinne Boulou.
Et dans le reste de l'actualité, Hamilton désormais hors norme.
Il a remporté hier le Grand Prix du Portugal, 92e victoire en Formule 1. Le champion du monde devient donc le pilote qui a gagné le plus de courses, une davantage désormais que Michael Schumacher.
Merci Lénaïc Monnier, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Les courses à présent avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Simon. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Marseille-Borély. Et mon pari gagnant sera le 107 Penja. Cette jeune pouliche âgée de 2 ans, issue du crack étalon Camelot, vient d'effectuer de prometteurs débuts le 22 septembre à Bordeaux, où elle est revenue de loin, terminée bonne deuxième, dans une action qui me laisse à penser qu'elle devrait pouvoir, dès cet après-midi, remporter sa première victoire. Notez bien, pour Marseille-Borély, réunion 1 dans la première course, le numéro 7, Penja.
C'est noté Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
Il est 5h15, l'heure d'ouvrir notre pressing du matin. Les histoires qu'on a repérées pour vous dans la presse. Ombline, de quoi allez-vous nous parler ?
Du train des merveilles dans la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes. Une ligne devenue vitale pour désenclaver la zone sinistrée après le passage de la tempête Alex. Ligne qui était pourtant menacée jusqu'alors.
A tout de suite sur Europe 1 et bon réveil.
Europe 1, Simon Rubin.
Il est 5h16 sur Europe 1, le rappel de l'essentiel de l'actualité. 52 000 cas supplémentaires de Covid-19 ces dernières 24 heures. Nouveau record du nombre quotidien de contaminations en France. La deuxième vague qui frappe aussi nos voisins européens. L'Espagne rétablit l'état d'urgence sanitaire pour 6 mois. L'Italie ferme cinéma, théâtre, salle de gym à partir d'aujourd'hui et pour 4 semaines. Rien ne nous fera reculer. Jamais. Les mots d'Emmanuel Macron hier soir sur les réseaux sociaux. Réponse au président turc qui a mis en doute la santé mentale du président français deux fois en moins de 48 heures. Des attaques qui provoquent des appels au boycott de produits français dans certains pays musulmans.
Europe 1.
Et c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Paul Lassène. D'abord, un coup d'œil aux unes de vos journaux. Libération s'intéresse au coronavirus, évidemment, la situation qui s'aggrave et les pauvres au creux de la seconde vague, titre le journal. Les inégalités sociales qui sont un facteur aggravant face au Covid-19. Du virus aussi, il est question à la une d'aujourd'hui en France. Les drôles de vacances de papy et mamie. Forcément, les retrouvailles avec enfants et petits-enfants sont pour le moins étonnantes, masquées. Autre sujet dans l'opinion. Entreprise, c'est qui le patron, se demande le journal. La CFDT rêve d'installer une co-gestion à la française dans les entreprises. Tandis que les discussions vont s'ouvrir pour faire face à la crise, les syndicats qui espèrent par ailleurs reporter la réforme de l'assurance chômage. Et puis, pas de foot à la une de l'équipe, mais de la F1. Lewis Hamilton, dans la légende, avec 92 victoires en Grand Prix, il dépasse Michael Schumacher. Et les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin, Omblin, on va partir en train, c'est un train particulier, un vieux tortillard sillonne la région de la Roya.
L'histoire de ce train des merveilles, victime de sa position transfrontalière entre la France et l'Italie, une histoire racontée par Libération ce matin. La ligne à flanc de montagne est devenue vitale aujourd'hui, après le passage de la tempête Alex. Elle relie Nice à Tende, à 800 mètres d'altitude, avant de rejoindre l'Italie. Et à cause du manque cruel d'investissement et d'un conflit franco-italien sur le financement des entretiens de ces rails, les viaducs, les tunnels, ces murs, eh bien, cette ligne centenaire est menacée depuis de nombreuses années. Inaugurée en 1928, elle permettait de relier Nice à Berlin. Mmh. La Seconde Guerre mondiale est passée par là avec son lot de dynamite. Puis après une longue reconstruction, le train de la Vallée des Merveilles a connu son âge d'or dans les années 80 avec au moins 12 allers-retours entre Nice et Turin. Et depuis, elle subit donc cette guerre des nerfs entre la France et l'Italie pour savoir qui doit payer son entretien. Il aura donc fallu attendre une catastrophe, nous dit Libé, pour que la région PACA reprenne les choses en main. Elle va reprendre 100% du financement sur le bas de la ligne. Pour le haut, ce sera du 50-50 entre la France et l'Italie. Alors dans cette zone sinistrée, le train des merveilles est le seul moyen de ramener des ressources aux habitants, de l'eau, des marchandises. Un vétérinaire raconte « J'aurais dû marcher entre 5 et 7 heures avec un sac à dos pour soigner chats, chiens et bétail. Le courrier est acheminé depuis quelques jours seulement. » Alors pour le moment, les dégâts empêchent d'aller au-delà de la gare de Fontan-Sorge. Le train ne va pas jusqu'à Tende. Il faut encore attendre un mois de travaux. Le train des merveilles, longtemps menacé aujourd'hui. C'est la seule porte d'entrée et de sortie de certains villages, c'est-à-dire dans Libération.
Merci Omblin. Quant à moi, j'ai choisi un article de L'Équipe qui nous entraîne au cœur de l'Empire Manchester City, le club anglais qui affrontera l'OM demain en Ligue des Champions. Sa particularité, il est piloté et financé par les Émirats. Et puis le concept, surtout, plus qu'un club, l'idée c'est de copier Disney. Parce qu'en plus du foot, il faut créer des produits dérivés, des parcs d'attractions, un business mondial relayé par 10 clubs filiales à travers la planète. Des clubs qui adoptent les mêmes couleurs, bien souvent, que la maison mère, qui prônent un style de jeu assez similaire. Là, on est vraiment dans une autre sphère. Il s'agit de faire de l'argent, plus peut-être même que gagner des matchs. D'argent, il est évidemment beaucoup question. Par exemple, l'article donne l'exemple de Lionel Messi. Quand le club de Manchester voulait signer Lionel Messi pour contourner le fair play financier qui oblige de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne, eh bien Manchester avait proposé de finir le contrat de Messi à New York, dans le club filial, pour 250 millions d'euros de salaire. Pourquoi pas ? Un bon moyen d'esquiver les réglementations européennes. Idem, quand il s'agit de vendre un joueur jeune d'un club filial vers la maison mère, rien ne dit que ce ne sera pas avec un prix au rabais. Ça aussi, ça permet de contourner les réglementations. Alors, il y a aussi un bon reportage du côté de Troyes, parce que le club de Troyes est un club filial de Manchester City. Et là-bas, ça commence un peu à grogner concernant l'organigramme, notamment parce que le club troyen a un petit peu peur de l'ingérence de la maison mère dans les affaires du club français. C'est à découvrir dans le journal L'Équipe. Et maintenant, Paul, on va parler de la difficile organisation d'une tradition annuelle aux États-Unis.
Oui, aujourd'hui on est le 26 octobre et dans 5 jours, c'est la fête préférée des enfants aux États-Unis.
est dans l'ambiance.
Voilà, Halloween tous les 31 octobre, une tradition. Alors, un peu moins développée en France qu'aux États-Unis, où nous apprend le site Combini. Eh bien, ces festivités pourraient être tout bonnement annulées dans beaucoup de villes. Alors, cette année, ce sont les masques chirurgicaux qui vont remplacer les masques de monstres et leur panoplie face à l'ampleur de la crise sanitaire. Alors, dans les régions et les États où les cas de contamination sont les plus faibles, les rassemblements pourront être autorisés à condition de respecter les gestes barrières et le port du masque. En revanche, partout ailleurs, les grandes réunions familiales, les courses déguisées et les visites de maisons hantées seront proscrites. Pas de rassemblement donc. Et du coup, qu'en est-il de la fameuse quête de bonbons
oui,
de maison
là, 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 là,
mais oui. En maison, ben oui.
Alors là, c'est pas Covid ça, ouais.
Alors s'il est fortement déconseillé par les autorités
ouais,
de santé,
fantômes,
ça,
oui,
ça tape à la porte. S'il est fortement déconseillé par les autorités de santé, certains maires de certaines villes quand même très touchées ne veulent pas se passer du folklore. Du coup, ils s'organisent. Certains ont même imaginé d'ingénieux systèmes pour glisser les bonbons dans les sacs en respectant la distanciation, notamment à l'aide de tuyaux.
Ouais, oh là
on
là,
fait passer les bonbons dans les tuyaux pour les faire tomber dans les sacs directement. D'autres entreprises ont imaginé une collecte aux bonbons virtuels afin d'écarter tous les risques.
Ouais, c'est moins sympa quand même.
Ouais, c'est moins drôle. Alors, on ne veut pas perdre les bonnes traditions aux États-Unis, même si les farces cette année sont un peu plus importantes que les farces traditionnelles.
Et il y aura peut-être un petit peu moins de caries du coup dans les mois à venir.
Voilà, il faut voir les choses positives.
Merci Paul et Rideau sur le pressing. Merci, merci à tous les
merci.
Deux. Il est 5h. Vous informe sur Europe 1. 23 minutes sur Europe 1 et on va prendre la direction du Calvados avec Isabelle de Radigues, éleveuse et céréalière. Bonjour Isabelle.
Bonjour Simon.
Eh ben on vous retrouve dans quelques secondes, on va parler de votre exploitation. À tout de suite sur Europe 1. Les doigts dans l'assiette, il est 5h23 sur Europe 1. Le Calvados, Isabelle, vous y êtes et en ce moment, c'est une période importante pour vous, c'est celle des semis de blé. Alors, ça se passe comment? C'est un gros travail?
C'est un gros travail qui se passe bien cette année parce qu'il fait bien le temps qu'il faut. Il n'a pas plu quand il fallait qu'on travaille, qu'on rentre dans les champs et puis il a plu un peu pour aider à la germination. Donc, c'est parfait. Ça se passe très, très bien cette année.
Et dans le même temps, parce qu'il y a le semis de blé, ça d'accord, mais il y a aussi la rentrée à l'abri des bovins, ce qu'on appelle la stabulation. J'ai appris un mot.
La stabulation, ce sont les grands hangars dans lesquels on les laisse l'hiver pour qu'ils soient au sec et au chaud. Et donc, on les rentre en stabulation, oui. Et c'est une stabulation libre, donc ils sont pas chacun à leur place. Ils se promènent librement dans un grand espace. Et ça, en effet... Oui.
Oui, allez-y, allez-y, je vous laisse continuer, bien sûr.
Donc, en fonction du temps, toujours, parce que vous savez que c'est la météo qui détermine tout ce qu'on fait quasiment. Donc, en fonction du temps, donc, si l'herbe ne va plus pousser maintenant, et si se met à pleuvoir et que les pâtures commencent à être un peu mouillées, ben, on va les rentrer et on les nourrit à l'intérieur.
Et alors, l'hiver qui arrive maintenant, nous, on a changé d'heure ce week-end, ça nous perturbe un petit peu, toujours. On se demandait d'ailleurs ici à la rédaction si c'était la même chose chez vous. Est-ce que les animaux sont sensibles au changement d'heure ou au fait que la nuit tombe plus tôt? Est-ce que ça perturbe un peu?
Je pense qu'ils s'en fichent complètement dans la mesure où, comme moi je ne les soigne pas à heure précise, ça ne change rien. Mais je vous assure que moi j'étais contente hier pour le changement d'heure.
Pourquoi?
J'aime leur hiver. Je préfère quand même me lever quand il fait clair que quand il fait tout noir.
Oui, ouais. Voilà. On peut vous comprendre. Vous n'êtes pas toute seule d'ailleurs dans ce cas-là. Eh ben, merci beaucoup. Merci infiniment Isabelle de Radigues. Je rappelle que vous êtes dans le Calvados. Et merci d'être venue ce matin nous parler de votre exploitation. Les doigts dans l'assiette, c'est tous les matins. Notre bande d'agriculteurs, d'éleveurs qu'on retrouve toujours avec beaucoup de plaisir. Et ça, c'est la météo, c'est une autre musique. Bonjour Laurent Cabrol.
Coucou.
Bon, j'ai pas l'impression que ce soit grandiose, c'est plutôt pluvieux même.
Oui, c'est une journée qui va pas nous plaire, je crois, parce que les pluies sont assez fréquentes. Alors, l'avantage, c'est que nous n'aurons pas toute la journée pour la plupart d'entre nous, et nous ne les aurons pas en même temps. Alors, en ce moment, la pluie est surtout présente, et puis attention, elle donne, sur les Alpes, sur la Provence, la Côte d'Azur, un peu sur la Corse, mais des pluies fréquentes avec de forts orages dans cette partie de la France, et de la neige à partir de 1200 mètres. En Alsace, Franche-Comté, Mâconnais, Massif Central, Midi-Pyrénées, Vallée du Rhône, des pluies copieuses, mais elles vont se desserrer un petit peu dans le sud-ouest. Il pleut aussi un petit peu ce matin, mais le soleil n'est pas trop loin. En fait, il n'y aura pas de grand beau temps, ça sera simplement des petites éclaircies. Sur la Manche, les longs des côtes de la Manche, toutes les régions qui bordent l'Atlantique, la vallée de la Loire, là c'est un temps orageux avec des averses entre deux petits rayons de soleil, mais les orages seront là plutôt cet après-midi, hein, pas ce matin. Et puis il y a une partie quand même qui sera un peu à l'écart, oui, à l'écart carrément.
D'accord.
Le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, le Berry et la région parisienne, où nous aurons là des éclaircies assez têtues. Température du jour en baisse, attention, hein, entre 12 et 19 degrés, 15 à Paris, oui. Aïe, aïe. C'est froid, c'est un drôle de truc. Ça pince, on dit froid. Voilà, voilà pourquoi vous avez mal. 15 à Paris, 17 à Marseille, 19 à Nice. Ce n'est pas le grand froid, c'est simplement beaucoup plus frais.
Merci Laurent Cabrol et à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Simon Rubin.
Merci d'être fidèle à Europe 1 pour vous réveiller. Tout de suite, un nouveau journal. Bonjour Émilie Dez.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Oui, c'est dur, mais on finit par s'habituer à tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ? Se rebeller ?
Les Espagnols compréhensifs après l'instauration d'un couvre-feu entre 23h et 6h. L'épidémie de coronavirus flambe en Europe. En France, plus de 52 000 cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Paris appelle à la fin du boycott des produits français dans certains pays du Moyen-Orient. Appel relayé après les propos d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. Le procès des attentats de janvier 2015 avec l'interrogatoire aujourd'hui et demain du seul homme accusé de complicité des assassinats commis par les frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Et puis succès historique de Lewis Hamilton au Grand Prix du Portugal. Il dépasse le record de victoires détenu jusqu'ici par Michael Schumacher.
Après ce journal, on parlera des dégâts psychologiques que peut faire le confinement. Mon invité, le professeur Antoine Pellissolo, chef du service psychiatrie du CHU Henri Mondor de Créteil. La France bouge avec Lénaïc Monnier. 5h31 sur Europe 1, bienvenue à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'épidémie de coronavirus a battu un nouveau record en France avec plus de 52 000 cas positifs enregistrés en 24 heures. Le nombre de malades en réanimation dépasse désormais les 2500 selon Santé publique France.
Et record de contamination aussi en Europe, Émilie.
Et pour contenir cette deuxième vague, l'Espagne a décidé d'instaurer un couvre-feu dans tout le pays entre 23h et 6h. Seules les îles Canaries y échappent. Une mesure drastique déjà appliquée en France et dans d'autres pays d'Europe et qui a plutôt bien été accueilli à Barcelone, Henri de Laguérie.
Ça fait longtemps que l'ambiance n'est plus à la fête à Barcelone. Les bars et les restaurants sont fermés depuis 10 jours. Les restrictions sont déjà nombreuses. Alors, ce couvre-feu entre 22h et 6h du matin est accueilli avec fatalisme et résignation par Iris, enseignante au collège.
Oui, c'est dur, mais on finit par s'habituer à tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ? Se rebeller ?
Avec cette mesure, les autorités veulent surtout mettre fin au rassemblement entre jeunes la nuit et aux beuveries qu'on observe sur la voie publique. Hors micro, quelques ados confient que ça va être dur de rester à la maison le samedi soir. Mais pour Martha, employée de banque, c'est un moindre mal. Elle redoute surtout un confinement à domicile.
Les autorités disent déjà que si ça ne s'améliore pas d'ici quelques jours, on aura un autre confinement total. J'espère que ça n'arrivera pas, mais je m'y prépare mentalement.
Charles, français installé en Espagne depuis 8 ans, est persuadé que le couvre-feu sera respecté.
Les Espagnols, enfin, de manière générale, ils ont été assez conciliants avec les décisions du gouvernement. Mais de toutes les manières, si c'est pour le bien de tous, ça me va.
La mesure durera au moins 15 jours. Chaque région sera ensuite responsable de la lever ou de la prolonger. Barcelone, Henri de Laguérie, Europe 1.
En Italie, les cinémas, théâtres, les salles de gym et les piscines vont devoir fermer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre. Les bars et les restaurants ne pourront plus servir après 18 heures.
Aux États-Unis, l'ambiance est au règlement de compte. Joe Biden accuse Donald Trump d'avoir capitulé face à la pandémie.
La faute à ses propos ambigus du chef de cabinet du président américain. Il a déclaré sur CNN « Nous n'allons pas contrôler la pandémie, nous allons contrôler le fait qu'on puisse avoir des vaccins ». C'est un constat honnête de la stratégie de Trump, a déclaré son adversaire. Espérer que si on l'ignore, le virus s'en ira.
Nous sommes unis, rien ne nous fera reculer, jamais. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron a répondu à Erdogan.
Le président turc a une nouvelle fois mis en doute la santé mentale de son homologue français. Hier, des propos jugés inacceptables prononcés après le discours d'Emmanuel Macron lors de l'hommage à Samuel Paty. Le chef de l'État avait promis que la France continuerait de défendre les caricatures du prophète Mahomet au nom de la liberté d'expression. Depuis, plusieurs pays du Moyen-Orient ont appelé au boycott de produits français, Jean-Jacques Herry.
Sur 57 États musulmans dans le monde, on a pu observer des appels au boycott des produits français dans seulement 5 ou 6 d'entre eux. C'est donc une minorité. Pour cette raison, voir la vache qui rit disparaître des rayons des supermarchés du Koweït ne reste encore que de l'ordre du symbole, analyse Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po.
C'est du symbole et c'est du symbole spectaculaire. À l'époque des réseaux sociaux, il est bien évident que ces images de boycott de produits, même si c'est tout à fait secondaire, à la fois sur le plan économique et sur le plan diplomatique, évidemment, ça va produire un phénomène. En tout cas, c'est ce qu'on pense.
Un phénomène d'entraînement pas encore observable pour le moment, car toujours selon le chercheur, il sera difficile pour un pays d'assumer un véritable boycott, car il faudrait alors faire face aux sanctions anti-boycott de l'ensemble de l'Union européenne, avec qui les pays du monde musulman entretiennent des échanges plus importants qu'avec des pays comme les États-Unis ou la Chine. Cela n'empêche pas les condamnations diplomatiques. En revanche, dernière en date, celle du Maroc, la liberté d'expression ne saurait sous aucun motif justifier l'offense injurieuse de la religion musulmane, écrit dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères marocain.
Et quelques 200 personnes se sont mobilisées hier devant la résidence de l'ambassadeur de France en Israël. Dans la bande de Gaza, des manifestants ont brûlé des photos d'Emmanuel Macron.
5h35, la suite du journal avec Émilie Dèze et début de la 9e semaine au procès des attentats de janvier 2015.
Un procès qui se déroule devant la cour d'assises spéciale de Paris. Pendant 2 jours, le principal accusé va être entendu. Il est soupçonné d'avoir servi de bras droit à Hamedi Coulibaly, le tueur de l'hypercachère, Chloé Triomphe.
Dès les premiers jours, Ali Riza Polat a donné le ton, impulsif, colérique, intervenant à tout bout de champ. Il a manifestement hâte de s'expliquer. Sa position, comme tous les accusés jusqu'ici, c'est qu'il est, dit-il, innocent, qu'il serait victime de balance, qu'il aurait incriminé pour le faire taire dans une autre affaire de droit commun. Pourtant, Ali Riza Polat, c'est bien celui que l'accusation considère comme le bras droit du terroriste de l'hypercachère. Un qualificatif repris par une enquêtrice et qui l'a littéralement fait sortir de ses gonds, au point de menacer la policière à la barre des témoins. Sur le fond, l'enquête a mis au jour un très grand nombre d'échanges téléphoniques avec Hamedi Coulibaly jusqu'à la veille de l'attaque de Charlie Hebdo. 30 SMS la nuit du 6 au 7 janvier 2015. Il est accusé aussi d'avoir participé à la fourniture des armes et au financement du terroriste, bref, d'avoir été présent à tous les stades des préparatifs. Ali Riza Polat, qui encourt la perpétuité, a 2 jours pour s'expliquer avant la confrontation générale entre les accusés. Prévu mercredi.
Chloé Triomphe pour Europe 1.
Les sports et en Formule 1, Lewis Hamilton plus fort que Michael Schumacher.
Le champion du monde Lewis Hamilton a remporté hier le Grand Prix du Portugal, sa 92e victoire en Formule 1. Il dépasse ainsi le record de victoire de Michael Schumacher. C'est tout simplement inouï, Axel May.
The record is broken. Lewis Hamilton wins.
Le speaker officiel de la Formule 1 s'enflamme alors que pour la 92e fois de sa carrière, le drapeau à damier est agité au passage de Lewis Hamilton. Depuis sa radio de bord, le Britannique remercie son équipe pour ce succès au Portugal et lâche « Quel travail fantastique !» Le voici un peu plus installé dans le panthéon de la F1. À lui tout seul, il a autant de victoires que Senna et Prost réunis, et une de plus que Michael Schumacher. En Allemagne, il y a 15 jours, lorsqu'Hamilton avait égalé le record du Kaiser, Mick Schumacher lui avait offert un casque de son père. Hier, sur la ligne d'arrivée, c'est son propre père, Anthony Hamilton, qui est venu l'enlacer. Le pilote Mercedes se rapproche un peu plus d'une 7e couronne mondiale, exploit que seul Schumacher a réussi jusque-là.
Axel May pour Europe 1.
C'était le journal d'Émilie Dèze. Prochain rendez-vous avec l'info à 6h, ce sera avec Sophie Echène. 5h38 sur Europe 1, place aux courses. Thierry Léger, quels sont vos pronostics ?
Direction l'hippodrome de Marseille-Borély pour ce quintet, un handicap qui réunira à l'homogène de 15 chevaux âgés de 4 à 7 ans. Et j'ai opté en priorité pour les locaux, avec les numéros 8, Kerat, 1, Gypsy Jet 7, 14, Indian Pacific et 13, Blue Hills. Tous entraînés sur place par des professionnels marseillais qui ont fait de ce quintet un objectif. Ensuite, je vous recommande le numéro 12, Champ de Mars, irréprochable depuis plusieurs mois et qui s'entend à merveille avec son jeune jockey Grégoire Legras, mais aussi le numéro 6, Edinson, toujours très performant sur cette piste de Marseille-Borély et qui aura le privilège d'être associé au crack jockey Pierre-Charles Boudot. Enfin, les numéros 4, Mon Argent et 7, Gunner Hill, ont eux aussi quelques arguments pour postuler aux premières places. Mon pronostic, 8, As, 14, 13, 12, 6, 4 et 7.
C'est noté, Thierry Léger, puis on retrouve tous vos pronostics sur europe1.fr.
Simon Rubin, sur Europe 1.
Confinement, couvre-feu, menace invisible du virus, voilà plusieurs mois, bientôt un an même, que nous vivons une période particulièrement troublée et surtout troublée d'une manière que personne n'avait prévue dans ce contexte. Nous sommes de plus en plus fragilisés, isolés, pas simple de vivre au temps du coronavirus. Et pour aborder cet aspect psychologique fondamental, je reçois le professeur Antoine Pellissolo, psychiatre et chef de service en psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, en tant que praticien, quelles conséquences au coronavirus observez-vous ? Bien sûr, on connaît les malades du virus, mais il n'y a pas que ça, il y a ceux qui sont nombreux, touchés, affectés psychologiquement.
Oui, alors on peut dire que pour tout le monde, qu'on soit d'habitude assez serein et qu'on arrive à faire face, ben on est rentré dans une période quand même plus difficile. Et pour les personnes qui sont déjà plus vulnérables d'habitude, on voit leurs symptômes s'accentuer. Donc il faut considérer, à mon avis, qu'on est tous dans le même bateau, c'est ce qui est vrai. On a chacun des ressources ou des mécanismes de défense qui sont quand même variables. On peut s'adapter plus ou moins quand on a des bonnes ressources, mais il faut considérer que là, dans l'ensemble de la population, les personnes sont fragilisées et certaines plus que d'autres. Alors je pense notamment aux jeunes, hein. En ce moment on pense beaucoup aux étudiants par exemple qui sont souvent isolés et avec moins de ressources, les personnes âgées, les malades évidemment, enfin, ça fait beaucoup de monde à essayer d'aider et de soutenir.
Le plus difficile, ou en tout cas une partie difficile de la problématique, est sans doute l'absence de perspective.
Oui, c'est vrai que d'habitude quand on a des adversités à traverser, on a toujours le bout du tunnel, enfin on arrive à se projeter dans l'avenir avec une sorte d'espoir là, qu'on peut construire au fur et à mesure. En ce moment, je crois qu'il faut garder évidemment l'idée qu'il y aura une fin du tunnel, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle arrivera. Donc c'est plus difficile de construire sa résilience, comme on dit, sa résistance un peu au quotidien. Ce qu'on conseille quand même de faire, c'est de le faire vraiment au jour le jour, c'est-à-dire de prévoir même des activités ou des choses qui peuvent être des moyens de faire face au quotidien, aujourd'hui, demain, dans les trois jours qui viennent. Parce qu'on ne sait pas effectivement ce qui sera obligatoire dans une semaine ou dans 15 jours en termes de, notamment de restrictions, de conditions de vie. Donc c'est cette adaptation individuelle, mais je pense aussi assez collective, encore une fois, basée sur la solidarité, l'entraide, une forme de cohésion, je dirais, sociale et socio-familiale d'habitude, mais là, même plus que ça, qui peut nous permettre de faire face.
Et justement, alors oui, comment faire face ? Il faut, on l'imagine, parler à qui, comment
D'habitude, hein, les amortisseurs de crise et de stress, c'est avant tout l'épanouissement personnel au travers d'habitude de la culture, des activités de détente, beaucoup l'activité physique, on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est une bonne manière de faire face, alors aussi bien pour le corps que pour l'esprit. En ce moment, ça risque d'être plus difficile, mais il faut garder cette option. Et puis après, c'est tout le vivre ensemble aussi, la proximité affective et sociale, là, qui fait aussi défaut. Il faut malheureusement passer par des processus un petit peu plus artificiels, hein, donc comme pendant le confinement, garder des liens sociaux, parce que c'est vraiment un des piliers essentiels du bien-être.
Peut-être l'occasion aussi de mettre du sens derrière une question qu'on pose toutes et tous, absolument tous les jours, c'est le fameux « comment ça va ?», qui est une question un peu rituelle à laquelle on ne prête pas forcément d'attention à la réponse en tout cas, mais là, pour le coup, c'est l'occasion de poser cette question-là dans son entourage de manière tout à fait, j'allais dire, sérieuse.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment le comment ça va. Alors, là, il y a la dimension quasiment de santé derrière, hein, parce qu'on sait que certaines personnes ont contracté le virus, donc on prend de leurs nouvelles. Et ça va être notre quotidien sûrement pendant encore des semaines et des mois. Et puis, il y a aussi plus globalement comment je me sens dans ma vie, comment je fais face. Et je crois que c'est une écoute, effectivement, une bienveillance qu'il faudrait cultiver encore plus que d'habitude, parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Je pense que la manière dont on gérera les aspects psychologiques, alors nous-mêmes hein, au quotidien, mais peut-être aussi les pouvoirs publics qui peut-être négligent assez souvent cette dimension-là, la manière dont on gérera cet aspect, on peut dire, psychosocial, je pense, déterminera la manière dont notre nation, dans son ensemble, va pouvoir sortir de la crise, au plan aussi bien économique que sanitaire.
C'est cette crise du coronavirus, c'est une mise à l'épreuve à la fois du vivre ensemble et j'allais dire du vivre avec soi d'une certaine manière.
Exactement, c'est vraiment une situation complètement inédite de stress vraiment collectif, c'est-à-dire qu'on vit tous la même chose, même non seulement en France mais dans le monde entier, quasiment au même moment. Ça ressemble à des situations probablement que l'espèce humaine a déjà traversées dans le temps, les grandes famines, les grandes guerres éventuellement, mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'évidemment personne n'était préparé, en tout cas dans nos générations, dans nos pays, et qu'il faut développer des processus donc de résilience collective. Alors c'est aussi bien, encore une fois, à son propre niveau, dans sa propre cellule familiale ou dans son petit réseau, qu'au plan plus collectif, parce que là aussi, les recettes, on va les inventer ensemble.
Très concrètement, un exemple de pratique qu'on peut peut-être mettre en œuvre pour faire face, justement, briser l'isolement, la solitude. Qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement ?
Je crois que tout simplement prendre des nouvelles, vous le disiez tout à l'heure, prendre des nouvelles de ses proches, on le fait forcément plus facilement, mais aussi ses voisins, tout simplement. Il y a des gens qu'on ne croise pas forcément toujours dans la rue, des personnes âgées, les appeler, éventuellement toquer à la porte si on peut. Enfin, vraiment se dire que chacun peut être responsable du voisin, parce que évidemment, il y a ceux qui ne pourront pas sortir, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui ont besoin, éventuellement, par rapport à des petites choses. C'est pas forcément, je dirais, s'investir dans une activité, ça on peut le faire aussi de manière réellement, par exemple, bénévole, mais ça peut être aussi au quotidien des petites choses qui vont à la fois aider les autres et donner effectivement du sens et de la valeur à sa propre participation personnelle.
Eh bien, merci beaucoup Antoine Pellissolo d'être venu nous parler et nous éclairer sur cette autre crise du coronavirus et ses conséquences plus psychologiques sur nous, sur les individus et puis sur notre collectif. Je rappelle, vous êtes psychiatre et chef de service en psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor. Merci beaucoup.
Au revoir. Europe 1.
Il est 5h46, l'heure de mettre en lumière ceux qui font bouger la France. Avec vous, Lénaïque Monnier. On va où ce matin ?
Ça ne va pas vous étonner, on va en Bretagne.
Oui, alors non.
On verra qu'une fois consommée, les coquilles Saint-Jacques s'offrent une nouvelle vie. Elles s'étalent sur les murs.
Allez, on a hâte d'entendre ça. Les Français ont des idées. Lénaïque qui va nous le faire découvrir chaque matin, tout de suite.
Europe 1, Simon Rubin.
5h47, le rappel de l'essentiel de l'actualité. Les appels au boycott sont sans aucun objet et doivent cesser immédiatement. C'est la réaction sans appel du Quai d'Orsay alors que des produits français sont retirés des rayons dans certains pays du Moyen-Orient. Un boycott lancé après les propos d'Emmanuel Macron sur la liberté d'expression. L'Europe inquiète face à la deuxième vague du coronavirus. Plus de 52 000 cas positifs enregistrés en 24 heures en France. Nouveau tour de vis en Espagne où un couvre-feu est instauré entre 23h et 6h. Et puis, le sport, Lewis Hamilton sur le toit du monde et de la Formule 1. Le champion du monde a remporté le 92e titre de sa carrière. Il efface Michael Schumacher des records. Et puis en Ligue 1, Lyon a battu hier soir Monaco 4-1.
Écoutez Le Monde Changer avec Simon Rubin sur Europe 1.
Et oui, la France bouge et les Français ont des idées. Et ce matin, avec vous, Lénaïque Monnier, eh bien, on va découvrir, parce que vous nous avez dégoté, une peinture pas comme les autres.
Oui, on va en Ille-et-Vilaine pour découvrir cette peinture qui n'est pas toxique ni pour vous ni pour l'environnement. Elle est peut-être même comestible puisqu'on la réalise à partir de coquilles Saint-Jacques.
D'accord, alors comment on fait passer ce coquillage de l'assiette au pot de peinture ?
Alors la bonne nouvelle, c'est que comme elles sont récupérées auprès de l'industrie alimentaire, il faut les consommer. Ensuite, il a fallu du temps, 2 ans pour que cette société AlgoPaint mette au point une formule et dépose un brevet. On récupère les coquilles, on les nettoie, on les concasse et on obtient une poudre blanche et rosée. On l'ajoute ensuite aux matières premières classiques de la peinture, toutes naturelles, de la résine végétale par exemple, ou encore des algues et des pigments naturels. On prend son pinceau et on s'y met.
Et alors cette peinture, elle s'applique partout ?
Non, pour l'instant elle sert de revêtement mural uniquement et c'est tout l'intérêt d'utiliser un coquillage évidemment confronté dans sa première vie aux marées et au rythme de l'océan. Elle est aussi lavable, elle dure une dizaine d'années pour l'instant et pour ceux que ça inquiéterait, la peinture est sans odeur.
Ah, ouais.
Votre maison ne sentira pas la noix de Saint-Jacques rôtie, sauf si vous les cuisinez, puisque je rappelle, c'est la pleine saison en ce moment.
Et ça me fait penser, mais c'est vrai que cette technique, c'est les Phéniciens qui l'ont trouvée, la couleur pourpre.
Exactement.
À l'origine, elle venait des coquillages qu'on concassait et qu'on traitait. Donc c'est vrai qu'on n'invente rien, mais on y retrouve effectivement des techniques. Merci Lénaïque Monnier, et puis vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1, notamment sur Twitter. La France bouge, c'est aussi le programme que vous retrouvez, 13h-14h avec Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil. Et cette musique très technologique, elle annonce que la France bouge aussi sur le web, Paul Lassène. On va parler cyberattaque.
Oui, depuis hier, une cyberattaque, Simon, de grande ampleur touche de nombreux sites internet français. C'est le gouvernement lui-même qui l'a annoncé via le compte Twitter officiel Cybervictime. Je cite « vague de cyberattaque en défiguration en cours ». Pardon. En langage web, la défiguration, oui. Il faut le savoir, c'est une tentative de modifier l'apparence des sites internet. Alors des dizaines et des dizaines de sites hackés, pour la plupart peu connu du grand public. Par exemple, le Centre technique régional pour la déficience visuelle, sur lequel une photo d'Emmanuel Macron grimée en cochon a été publiée. Certains sites beaucoup plus connus, eux, sont également victimes. TF1 sur Facebook, où des messages haineux à l'encontre de la France et de la politique du président de la République ont été publiés, des messages très violents, mais qui, à leur lecture, semblent vraiment générés par des automates. Alors, ces hackers, on sait peu de choses sur eux pour l'instant, si ce n'est qu'ils se présentent comme des musulmans bangladais. Voilà, c'est les seuls éléments qu'on a pour l'instant. Des piratages qui arrivent quelques heures après des tweets du président Macron en arabe, semant là encore le doute sur un possible piratage du compte Twitter du président Emmanuel et Brigitte Macron aussi, qui sont directement visés par ces attaques. La première dame n'est pas victime d'un piratage. Mais cette nuit, elle est très citée sur les réseaux sociaux, après notamment la vidéo d'un youtubeur du Moyen-Orient qui la compare à un chien. On sait encore peu de choses ce matin donc sur comment ça s'est passé, pourquoi ça se passe. Mais on rappelle que ça arrive dans un climat très tendu entre la France et la Turquie.
Effectivement, et on en reparlera dans les journaux d'info. Merci Paul et à demain. C'est le moment de vous annoncer. Ondelat raconte, c'est tous les jours à 14h sur Europe 1. Et l'histoire du jour, c'est Kinga Wolf, week-end mortel au Bristol. En 2009, Kinga Wolf est battue à mort dans la suite 503 du Palace parisien, le Bristol. Les policiers du 36 soupçonnent son compagnon britannique qui a pris la fuite. Le récit Ondelat raconte, il est à télécharger dès maintenant sur Europe 1.fr. 5h52 sur Europe 1. Le 5-7 se poursuit en musique et vous l'entendez, les Red Hot Chili Peppers sont dans votre partition Oblin Roche.
Oui, l'histoire de l'album, de leur album Blood Sugar Sex Magic, l'un des plus importants. À tout de suite.
Europe 1.
Il est 5h54 sur Europe 1 et on va ouvrir la partition d'Omblin Roche. C'est chaque matin l'histoire qui se cache derrière une chanson ou un artiste. Et ce matin, l'histoire d'un album, l'un des plus grands classiques des Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic, qui marque un tournant dans la carrière du groupe californien.
Et hasard du calendrier, Simon, il sort le même jour qu'un autre disque fondamental dans l'histoire du rock, Nevermind de Nirvana, le 24 septembre 91.
Les Red Hot Chili Peppers, qui avaient entamé une deuxième existence lors de l'enregistrement de l'album précédent, Mother's Milk.
Avec l'arrivée du guitariste John Frusciante et du batteur Chad Smith, ils ont rejoint 3 ans plus tôt le socle solide composé d'Anthony Kiedis, le chanteur, et de Flea, de bassiste. Alors pour ce nouveau projet et pour les guider vers les sommets, les 4 musiciens sont confiés à l'artisan du rap new-yorkais, le très respecté, le très barbu, le producteur Rick Rubin. Il impose son autorité et canalise l'énergie des Californiens.
Ce qui n'est pas rien de canaliser leur énergie. Et pour cela, Rick Rubin les enferme carrément. À la fin du printemps 91, les Red Hot se retrouvent coincés, confinés pourrait-on dire. Bon, c'est quand même dans un manoir sur les hauteurs de Los Angeles. Et la légende raconte que ce manoir a été la première résidence du grand magicien Houdini.
Et on aime dire surtout que la demeure est hantée. Pour le batteur Chad Smith, il y a clairement des fantômes et il préfère rentrer chez lui chaque jour à moto plutôt que de dormir sur place. Au contraire, le guitariste John Frusciante apprécie la compagnie des esprits. En tout cas, pendant ces quelques semaines de réclusion, les Red Hot Chili Peppers trouvent un nouveau son.
« Ce cinquième album, baptisé donc Blood, Sugar, Sex, Magic, regorge de titres majeurs.
La partition oscille entre hard rock, funk et ballade mélancolique. La pochette du disque est tout aussi iconique. La direction artistique est confiée au réalisateur Gus Van Sant. On distingue les visages des quatre membres du groupe autour d'une rose, la bouche ouverte avec des branches épineuses qui sortent et les relient entre eux. Gus Van Sant est également celui qui est derrière le clip Under the Bridge, une jolie mélodie pour décrire le passé glauque d'héroïnomane du chanteur. It's hard to believe there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her love. Le chanteur Anthony Kiedis qui raconte comment il allait s'approvisionner en drogue sous un pont. Under the Bridge des Red Hot Chili Peppers, extrait de l'album culte Blood Sugar Sex Magic.
C'était la partition d'Omblin Roche. Merci Omblin.
Merci à demain.
Et place au cinquième membre des Red Hot Chili Peppers,
ouais.
Laurent Cabrol.
Et Simon, tu crois pas si bien dire. Moi, j'adore leurs tenues. Ils ont des tenues noires et blancs magnifiques. Hein.
Et ben voilà.
Ils sont... Moi, j'aimerais avoir un blouson de Red Hot Chili Peppers. Ça, ben... c'est vraiment très
génial. Et ben notons ça pour votre anniversaire, Laurent, alors.
Essaye d'en trouver un, tiens. Bon, alors, les températures minimales en ce moment, 7 à Alençon, 8 à Paris, 9 à Bourges, 10 à Toulouse et Lyon, 11 à Nancy en ce moment, hein, 16 à Marseille et 18 à Toulon. Et dans la journée, 11 à Belfort, ça baisse un peu, hein, 12, même bien 12 à Épinal, 13 à Dijon, 14 à Caen et à Toulouse et à Lyon, 15 degrés à Paris et à Laval et Rennes, 17 à Marseille et 19 à Nice. Bon, c'est de la pluie pour presque tous, de la pluie pas en même temps,
ouais.
Mais de la pluie simultanément. Une seule région, ou quelques régions, seront peut-être à l'écart du mauvais temps. Le Nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, le Morvan, le Berry et la région parisienne, où il y aura probablement de très très belles éclaircies. Mais partout ailleurs, il pleuvra soit ce matin, alors dans l'Est il pleut beaucoup en ce moment, soit alors sur les autres régions dans le courant de la journée. J'y reviendrai. Hey,
merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Simon Rubin.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1, c'est l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Il est 6h.
S'était félicité d'avoir obtenu un report des mesures justement permettant de limiter la propagation. Tout n'a pas été fait en temps et en heure pour essayer d'éviter ça.
La gestion de l'épidémie de coronavirus est-elle trop laxiste ? À Lille, les contaminations explosent dans la métropole. Plus de 52 000 nouveaux cas enregistrés en France sur la seule journée d'hier. Situation critique dans les hôpitaux de région parisienne où 2 lits sur 3 sont occupés par des patients Covid. Dans ce journal, l'appel au boycott de produits français de la part de la Turquie et de nombreux pays musulmans après les propos des d'Emmanuel Macron sur l'islam. Le sort de la mosquée de Pantin, étudié aujourd'hui par le tribunal administratif de Montreuil. Et puis à 35 ans, Mario n'a pas pris une ride après une cure de jouvence. Le plus célèbre des plombiers est de retour sur console.
Juste après le journal, mon invité inattendu, on va parler de Donald Trump et plus précisément des discours du président américain, des discours simplistes, voire simplés. On posera la question à notre invité. On retrouvera aussi Fanny Agostini pour parler de l'inexorable fonte des glaces. Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La métropole lilloise détient un triste record, celui des communes où le taux d'incidence du coronavirus est le plus élevé de France. 7 communes de la métropole, dont Roubaix, Tourcoing ou encore Waterloo, font partie des 10 villes les plus touchées par le Covid. Alors pourquoi cette flambée de l'épidémie dans ce territoire? Élément de réponse avec Maximilien Carlier.
Tout a commencé, non pas à Lille, selon plusieurs spécialistes, mais au Touquet, sur le littoral. 80 étudiants lillois contaminés juste avant la rentrée scolaire. Bertrand Legrand, secrétaire général de la Confédération des syndicats médicaux français.
Ce cluster du Touquet a été le point de départ de l'explosion dans le Nord-Pas-de-Calais, ça c'est très clair.
Car le virus s'est diffusé ensuite à leur retour, partout dans la métropole lilloise. Les soirées en appartement, le laisser-aller dans les gestes barrières. Et quand ça touche les plus précaires, comme par exemple à Roubaix ou à Tourcoing, ça devient incontrôlable.
Ces familles modestes, en fait, elles vivent un grand nombre dans des petits appartements à 7, 8, 9. C'est une catastrophe, parce que du coup, forcément, ils se le passent tous les uns les autres. Et à ce moment-là, en plus, ils sont dans des logements collectifs, donc forcément, ça se propage de voisin en voisin.
Autre facteur aggravant pour Mathieu Calafiore, médecin à Waterloo, c'est la gestion du Covid par Martine Aubry début octobre.
La maire de Lille s'était félicitée d'avoir obtenu un report des mesures justement permettant de limiter la propagation. Ben, je pense qu'on est en train de payer une partie de ce report-là maintenant. Non, clairement, tout n'a pas été fait en temps et en heure pour essayer d'éviter ça.
Et selon ce spécialiste, le couvre-feu ne changera pas grand-chose. Dans l'immédiat, il a été mis en place bien trop tard. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
Plus de 52 000 cas enregistrés dans toute la France sur la seule journée d'hier. Nouveau record de contamination. Le nombre de patients hospitalisés en réanimation continue d'augmenter lui aussi. Plus de 2500 malades actuellement.
Et dans les hôpitaux d'Île-de-France, les deux tiers des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. La pression monte dans ces établissements et les soignants craignent d'être submergés par cette deuxième vague.
Écoutez l'inquiétude d'Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Il y a une très forte accélération à la fois des contaminations. On a eu encore vendredi 8000 nouveaux cas en Île-de-France, mais aussi une accélération des entrées en réanimation. On était en moyenne jusqu'à mercredi à 35 entrées par jour dans les réanimations d'Île-de-France. Jeudi, vendredi et samedi, on a eu près de 90 entrées. Et à l'heure où je vous parle, 67% de nos lits de réanimation sont occupés par des patients en Covid. Donc cette accélération, elle est rapide. Il y a quelques établissements de la région dans les 48 dernières heures qui ont fait face à des arrivées soudaines avec des effets de vague. Et le système de santé, il est sous une tension inouïe. Les soignants, ils ont déjà vécu plusieurs mois de crise et c'est notre responsabilité collective de les protéger d'un afflux massif qui serait insoutenable.
Le directeur de l'ARS d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, interrogé par Fabienne Lemoyle.
Et des records de contamination ailleurs en Europe aussi. L'Espagne décrète un couvre-feu de 23h à 6h jusqu'à début mai. En Italie, les cinémas, théâtres et salles de sport doivent fermer leurs portes à partir d'aujourd'hui jusqu'au 24 novembre au moins.
6h04 est la suite du journal avec Sophie Echen. Le torchon brûle entre Paris et Ankara. Une nouvelle fois, le président turc Erdogan remet en question la santé mentale d'Emmanuel Macron à cause de son attitude envers les musulmans de France.
Et tout est parti d'une phrase. La France continuera à défendre les caricatures du prophète Mahomet. Ces quelques mots du président français lors de l'hommage à Samuel Paty ont suffi pour mettre le feu aux poudres, Johanna Chabas.
Et oui, cette phrase ne passe clairement pas auprès de pays comme la Turquie, l'Iran, la Jordanie ou encore le Koweït qui ont tous dénoncé les caricatures. Le mouvement a commencé sur les réseaux sociaux il y a 2 jours avec des hashtags en arabe appelant à ne plus acheter français. Ces appels, ces messages sont souvent accompagnés d'une liste de marques à interdire ou de vidéos montrant les étagères de magasins vidées de leurs produits français. Au Qatar ou au Koweït, plusieurs chaînes de distribution de grandes surfaces ont déjà annoncé avoir retiré les produits français de leurs magasins jusqu'à nouvel ordre. Cela concerne des confitures par exemple de la marque Saint-Dalfour, très présente dans les pays arabes, ou encore des fromages comme Kiri et Babybel. Selon les autorités françaises qui le surveillent de près, le phénomène prend de l'ampleur, plus de 200 000 tweets en 24 heures. Un mouvement qui s'inscrit dans un contexte plus large de contestation, notamment en Israël. Près de 200 personnes se sont réunies hier soir devant la résidence de l'ambassadeur de France. Et dans la bande de Gaza, des protestataires ont brûlé des photos du président français.
Les explications de Johanna Chabas.
Après l'assassinat du professeur d'histoire géo, Gérald Darmanin avait avait annoncé, lui, la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis.
Le sort du lieu de culte est désormais entre les mains de la justice. Un arrêté de fermeture pour 6 mois a été pris par le préfet, mais les responsables de la mosquée ont déposé un recours en référé liberté pour contester cette décision. Recours qui sera examiné aujourd'hui. Jean-Jacques Héry.
Chose rare cet après-midi, au tribunal administratif de Montreuil, il y aura un préfet. Car c'est Georges-François Leclerc, préfet de la Seine-Saint-Denis, qui défendra en personne son arrêté de fermeture. C'est dire si le symbole est fort, 10 jours après la mort de Samuel Paty. Devant le tribunal, il devrait insister sur plusieurs points qui motivent, selon lui, la fermeture. La diffusion sur la page Facebook de la mosquée de la vidéo du parent d'élève se plaignant de l'enseignant assassiné, d'abord, et également la présence d'un imam décrit comme radical au sein du lieu de culte. Autant d'arguments difficilement recevables pour maître Vincent Brengart, qui défend la Fédération musulmane de Pantin. Pour lui, c'est clair, les autorités veulent avant tout faire un exemple.
Il n'y a pas suffisamment d'éléments factuels pour pouvoir justifier une mesure aussi grave. Il peut exister un débat sur certains des points qui sont évoqués par la préfecture. Maintenant, la question est de savoir si on ne peut pas résoudre les problématiques autrement qu'en fermant la mosquée pendant 6 mois. Ce qui se pose, c'est le caractère disproportionné ou non de la mesure que devra trancher la juridiction administrative.
Et le tribunal devrait se prononcer dès ce soir, demain au plus tard.
L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'engagent à un nouveau cessez-le-feu dans la zone du Haut-Karabakh à partir d'aujourd'hui, alors que le conflit s'enlise depuis un mois. Hier à Paris, des milliers d'Arméniens de France sont manifestés pour réclamer la reconnaissance de l'indépendance de ce territoire. 7 personnes arrêtées au large de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre, hier soir après des menaces sur l'équipage d'un pétrolier. L'enquête se poursuit pour établir les circonstances de cet incident qui s'apparente à une tentative de piratage.
On marque une pause et on va vous parler d'un monument du jeu vidéo remis au goût du jour. Mario 64 est de retour sur console. Ça va faire plaisir à beaucoup de nostalgiques. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Simon Rubin.
Il est 6h10 sur Europe 1, la suite du journal Sophie Echen.
Et c'est le moment d'attraper votre manette pour retrouver les grands classiques du jeu vidéo qui vous ont accompagné pendant votre jeunesse. Avec quelques pixels en moins, plusieurs jeux anciens sortis il y a parfois plus de 30 ans ont été remis au goût du jour cette année. De quoi combler la nostalgie des joueurs. Clément Le Saffre.
It's me, Mario!
C'est le plus célèbre des héros de jeux vidéo. Mario vient de fêter ses 35 ans, un peu jeune pour un lifting, mais Nintendo a remasterisé 3 jeux du plombier moustachu, notamment Super Mario 64, sorti en 1996 et très aimé des fans, mais plus du tout accessible de nos jours car la Nintendo 64, tout comme les autres vieilles consoles, n'est plus en vente. Super Mario, mais aussi Final Fantasy, Mafia, Resident Evil, tous ces jeux des années 90-2000 ont bénéficié d'un remake cette année. Graphisme modernisé, nouveau moteur de jeu, scénario enrichi, c'est un processus technique complexe, mais qui reste moins coûteux que la création d'un nouveau jeu. Alex Cox, responsable créatif du remake de Mafia.
Faire le remake nous a pris 2 ans. Pour un jeu original, ça aurait pris 1 ou 2 ans de plus. En faisant un remake, on apporte un jeu avec une superbe histoire à un nouveau public et ça nous coûte beaucoup moins cher. C'est un gros jeu produit pour le coût d'un plus petit jeu.
Des jeux moins chers, mais pas moins lucratifs. Un remake permet de séduire à la fois les joueurs de la première heure et les plus jeunes qui n'ont pas connu les jeux de leurs parents. Un phénomène qui va s'amplifier l'an prochain. On attend déjà des remakes de Prince of Persia et même de Pokémon.
Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.
C'était le journal de Sophie Echen. Prochain rendez-vous avec l'info 6h30 avec Jérôme Lacroix.
Retrouvez le journal des sports avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes.
Et rebonjour les Naïcs Monnier. L'Olympique Lyonnais, c'est du foot, n'a fait qu'une bouchée hier soir de Monaco.
4-1, score final et avec ce succès, Lyon revient à 2 points de Rennes, autrement dit du podium. De son côté, avec 11 points, Monaco fait du surplace et se retrouve 12e du championnat. On rappelle que Lille et Nice ont fait match nul, il y a eu un partout. Déception pour Saint-Etienne qui subit sa 4e défaite d'affilée. Cette fois, c'était face à Metz qui a enfin gagné 2-0.
Le 15 de France de retour ce week-end, après la victoire contre le Pays de Galles, il faut déjà penser à la suite et surtout à la fin.
Eh bien oui, le 15 de France est de retour à Marcoussis pour préparer la dernière journée du tournoi Destination, interrompu, vous vous en souvenez, par le confinement. France-Irlande, c'est donc le rendez-vous à gagner pour terminer en beauté. Écoutez le sélectionneur Fabien Galthié, plein d'espoir après la victoire face aux Gallois.
On est très satisfait, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'on est au début d'une période internationale, donc avec une échéance samedi prochain qui est pour nous un objectif essentiel. On a la possibilité de gagner notre première compétition, donc ce match, on voulait le gagner absolument parce que, comme vous l'avez dit, il y a eu un aller à Cardiff, il y a eu un retour, donc il fallait gagner l'aller-retour, ça c'est fait. Mais ce match nous aide aussi à préparer le dernier match auquel on tient tant, ce match qui peut nous permettre de gagner cette compétition, sachant qu'évidemment, les Anglais sont en Italie.
Oui, parce que si on regarde le classement, on rappelle que l'Irlande a 14 points, la France et l'Angleterre en ont 13.
En basket, pas de joueurs de la NBA dans la liste de Vincent Collet.
Liste de 13 joueurs pour la rentrée des Bleus, c'est dans un mois pour des qualifications à l'Euro. Vincent Collet va s'appuyer sur une équipe très jeune, sans les stars de la Ligue nord-américaine qui n'a pas souhaité les libérer. Un regret pour Vincent Collet.
Je suis déçu parce que je pense que c'était une belle opportunité. Bon, à la fois, bien sûr, de renforcer notre équipe, mais également de profiter pour pouvoir travailler en vue de la suite, sachant qu'on n'a pas eu justement de rassemblement cet été. Voilà, on est obligé de prendre acte et de construire une équipe en conséquence.
Vincent Collet avec Axel May pour Europe 1.
Le chiffre du jour.
Eh bien, 4 comme le nombre d'étapes remportées par Arnaud Démare sur le Giro cette année. Ce n'est pas sa seule satisfaction, évidemment, puisqu'il repart d'Italie avec le maillot cyclamen, celui de meilleur sprinter, comme Nasser Bouhanni ou encore Laurent Jalabert avant lui.
Merci, Lénaïque Monnier.
C'était le journal des sports. Toute l'actu pour bien parier est sur Europe 1 avec Winamax. Winamax, les meilleures cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1.
6h14 sur Europe 1. Et à quelques jours maintenant de l'élection présidentielle américaine, on va s'intéresser ce matin à Donald Trump. L'actuel président, candidat à sa réélection, multiplie les meetings, les sorties médiatiques pour rattraper son retard dans les sondages. Et nous, eh bien, on a eu une pensée très forte pour celles et ceux qui doivent traduire les discours de Donald Trump, le président américain qui a une manière bien à lui de parler, parfois vulgaire, parfois fausse grammaticalement. Et c'est l'heure de dévoiler mon invité inattendu, Tom Viard. Il est interprète notamment de Donald Trump et on va discuter ensemble de la manière qu'a le président américain de parler dans ses discours. Alors est-il simpliste ou carrément simplet ? Réponse dans un instant, à tout de suite.
Simon Rubin sur Europe 1.
Il parle souvent mal, son anglais n'est pas toujours correct, il ne finit pas toutes ses phrases et son vocabulaire est parfois très limité. Lui, c'est Donald Trump, l'actuel président américain, candidat à sa réélection. Et on va analyser ensemble cette manière de parler du président américain avec Tom Viard, interprète. Et on imagine que traduire, interpréter les propos de Donald Trump, c'est un vrai défi. En quoi c'est difficile ? En quoi c'est différent de traduire Donald Trump ?
Donald Trump, il est difficile pour plusieurs raisons. Soit il lit son discours, son prompteur, et là il est difficile parce qu'il lit très vite et avec très peu d'intonation. Mais on le connaît surtout pour son style dans ses meetings, le one-man show, très différent des déclarations solennelles, où bon, il a un style très lapidaire, il passe du coq à l'âne, il utilise très souvent les mêmes mots. Et là, il faut à la fois reproduire le style, donc ne pas le trahir sans pour autant exagérer, et en même temps essayer de donner les informations dans un français au minimum correct.
Alors, c'est vrai qu'il y a des études, très tôt d'ailleurs dans sa mandature, qui montraient qu'il utilisait par exemple beaucoup moins de mots de vocabulaire que les autres politiciens, présidents, ses prédécesseurs. Est-ce que le fait qu'il utilise si peu de mots, on pense notamment au mot « great » qu'il utilise vraiment à tort et à travers, est-ce que ça rend la traduction plus compliquée ou plus facile ?
Ah oui, c'est vrai qu'il a un vocabulaire très limité, disons. C'est aussi pour ça que beaucoup d'Américains l'aiment bien, ils le comprennent très facilement, ils parlent de manière assez simple. Mais pour ce qui est du mot « great », alors c'est assez intéressant parce que autant ils l'utilisent énormément en anglais, autant en français, si Trump était français, il n'utiliserait pas forcément exactement le même mot. C'est-à-dire que s'il dit « great news with a great guy, great time », donc il va dire « great » trois fois, mais en français, on ne peut pas utiliser le même mot parce que, tout simplement, il y a certains adjectifs qui vont plus naturellement avec certains mots. On va dire une excellente nouvelle pendant un très bon moment avec un homme formidable ou un homme brillant. On ne peut pas dire un homme excellent avec une nouvelle excellente, à un moment excellent, ça ne marche pas. Donc, même si lui utilise le même mot, il faut quand même l'adapter en français. Trump, s'il parlait français, utiliserait le même sens, le même superlatif, mais avec un petit peu plus de diversité parce que le français s'y prête. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de répétitions. S'il répète le mot migrant ou criminel 5 fois dans sa phrase, là, ce sera très simple, il faudra le répéter, c'est juste de la répétition pure et simple.
Il y a aussi quelque chose alors qui peut parfois nous échapper quand on entend un discours du président américain qui est traduit, voire même qui est sous-titré si on prête attention simplement aux sous-titres, c'est qu'il a parfois une manière de parler très simpliste, voire très enfantine. On peut se souvenir du coronavirus quand il disait « c'est une mauvaise chose, bad thing ». c'est assez étonnant. On pourrait imaginer tout un tas d'autres expressions pour parler d'un virus qui tue des centaines de milliers de personnes.
Ah oui, alors ça c'est sûr que c'est juste enfantin. Et c'est assez surprenant quand il parlait de l'attaque contre Aboubakar al-Baghdadi. Il a dit « il y a eu beaucoup de coups de feu, ils ne sont même pas passés par la porte ». Normalement, on arrive à la porte et il disait « on dit toc-toc et on rentre ». Enfin, c'était ouais. vraiment très très simple. Et même lorsqu'il lit un discours donc, qui a été écrit pour lui, c'est assez amusant parce qu'il parle un très bel anglais dans ce genre de circonstances. Mais il fait parfois des apartés, et là, ça s'effondre.
Et alors, est-ce que, et ça c'est un peu la question, je pense que tous les interprètes et que beaucoup de gens se sont posés, est-ce qu'il est simpliste ou est-ce qu'il est simplet ? Est-ce qu'il réinvente une manière de communiquer ou est-ce qu'en faisant des discours, eh bien, il montre ses limites ?
C'est intéressant, on se demande s'il pourrait mieux parler. C'est ce qu'il dit, hein. Il dit qu'il a des très beaux mots, les plus beaux mots, selon ses dires. Mais en tout cas, en tant que président, il n'a pas décidé d'endosser ou d'adopter toutes ces traditions qu'on voyait chez Obama, qui s'exprime incroyablement bien. Lui, il a décidé de faire ça à sa sauce et de ne pas s'embêter avec tout ce décorum. Est-ce qu'il saurait mieux parler ? Il faudrait voir un jour s'il est dans une situation où il est tenu de s'exprimer comme ça. En tout cas, quand il lit son prompteur, il s'exprime incroyablement bien.
Eh bien, on scrutera et on écoutera attentivement les prochaines adresses publiques du président Trump. Merci beaucoup, Tom Viard. Je rappelle que vous êtes interprète, notamment de Trump, aussi auparavant de Barack Obama. Et grâce à vous, on a un petit peu mieux compris aussi la manière dont s'exprime Donald Trump et en quoi c'est quelque chose d'absolument unique et passionnant. Merci beaucoup. Et très bonne journée.
Merci, avec plaisir. Bonne journée.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h22 et c'est bien Simon Rubin, Sébastien Krebs, on le salue, il est en vacances. Le rappel de l'essentiel de l'actualité, Paris appelle les pays du monde musulman à cesser le boycott des produits français. La tension monte, notamment entre la Turquie et la France. Le président turc Erdogan s'en est pris à Emmanuel Macron après ses propos sur l'islam. Plus de 52 000 cas de coronavirus enregistrés au cours des dernières 24 heures en France et plus de 2500 patients en réanimation. Les deux tiers des lits sont occupés dans les services des hôpitaux de région parisienne. Et puis, Michel Fourniret et son ancienne épouse Monique Olivier sont convoqués dans les Ardennes aujourd'hui sur les lieux où le tueur est accusé d'avoir séquestré et assassiné Estelle Mouzin en 2003.
Europe 1.
6h23, le 5-7 continue avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
On regarde notre planète chaque matin avec vous depuis votre exploitation en Haute-Loire. Cette fois, on va parler de la fonte des glaces. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7. Simon Rubin.
Il est 6h26 sur Europe 1 et on écoute le monde changer. On regarde notre planète avec Fanny Agostini. Et Fanny, vous nous interpellez ce matin car à l'heure où nous parlons, la banquise qui est censée se reformer en Arctique n'est toujours pas revenue.
Toujours pas. La mer de Leptef, considérée comme le berceau des glaces arctiques, située au-dessous de la Sibérie, offre actuellement un passage béant, un été indien qui se prolonge en raison de l'inertie thermique de l'eau. La chaleur inquiétante de cet été ne s'est pas dissipée. La température de l'eau de mer est actuellement 5 degrés au-dessus des moyennes, ce qui ralentit effectivement la formation de la glace et donc la reconstitution de la banquise.
Et vous nous dites que la situation est en train de basculer avec un emballement du réchauffement, la glace étant un précieux bouclier qui régule le climat.
C'est ce que craignaient les scientifiques. Il faut se dire que moins il y a de surface blanche sur Terre, moins le rayonnement solaire est réfléchi. Ce phénomène est baptisé l'albédo par les scientifiques. Les glaciers, la banquise, les sommets enneigés, les glaces terrestres comme le Groenland ou l'Antarctique sont autant de boucliers naturels qui dévient les radiations en provenance du Soleil, régulant ainsi le climat de notre planète en empêchant la surchauffe. Alors l'ensemble des zones enneigées sur le globe, c'est-à-dire la cryosphère, représente quand même 40 à 85 millions de kilomètres carrés en fonction de la saison, une capacité de réflexion colossale. Le problème, la disparition de ces surfaces blanches, c'est qu'elles fondent et moins les rayonnements du soleil sont réfléchis. Et donc en conséquence, la Terre absorbe ces rayons, la chaleur va s'amplifier et la neige et la glace vont fondre encore plus rapidement.
Ouais, donc c'est un cercle vicieux. Et quelles seraient dès lors les solutions pour stopper cet emballement ?
Il y a plusieurs solutions qui sont envisagées pour préserver les étendues glacées, notamment en Antarctique, où des chercheurs allemands ont proposé d'utiliser des canons à neige pour absorber l'eau issue de la fonte des glaces et resolidifier ces glaces et donc ainsi endiguer le phénomène. Idée qui reste très controversée, vous vous en doutez, car les canons à neige sont particulièrement gourmands en énergie. Alors la meilleure solution reste de lutter contre le réchauffement climatique en allant évidemment le plus rapidement possible vers la neutralité carbone, notre seule chance de conserver cet effet albédo dont je vous parlais pour éviter une surchauffe ingérable.
Merci Fanny Agostini. C'est difficile à entendre, mais c'est important de le souligner sur cette fonte des glaces, notre planète. Hein, c'est chaque matin à 6h25 avec vous. À demain.
À demain.
Et il est 6h28. C'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol. La météo n'a pas changé, elle est toujours... bon. Fantastique. Voilà. Disons-le, Laurent, soyons honnettes.
Bon, alors je vais vous suivre. Elle sera fantastique, cette météo. Mon Dieu, mon Dieu, que depuis.
Oui.
C'est une journée pluvieuse. C'est une journée fraîche, beaucoup plus fraîche. Mais j'en profite pour dire à tous ceux qui nous écoutent que ce sera mauvais aujourd'hui, ce sera mauvais demain. Ce sera un peu mieux mercredi, beaucoup mieux jeudi, encore mieux vendredi. Et le congé de Toussaint s'annonce... idyllique. Oh non, j'exagère. Allez, ça annonce doux, même très doux. Alors, revenons à notre journée. Sur les Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, les pluies sont fréquentes en ce moment avec de forts orages et les chutes de neige à partir de 1200 mètres. Là, ça restera un peu en l'état tout au long de la journée. Sur l'Alsace, la Franche-Comté, sur le Mâconnais, le Massif central et le Midi-Pyrénées, comme sur la vallée du Rhône, ce sont des pluies copieuses à l'heure où nous parlons, mais elles vont se desserrer. Elles se desserrent d'ailleurs un petit peu et les éclaircies vont commencer non pas à apparaître, mais les répits commencent à apparaître. Dans le sud-ouest, il pleut un peu moins. Avec même, on peut espérer, une échancrure dans le courant de la journée. Une échancrure ensoleillée, bien sûr. Et puis sur la Manche, l'Atlantique, la Vallée de la Loire et le Poitou-Charentes, c'est un temps d'orage et d'averse entre deux petits rayons de soleil. Je termine avec les régions où ce sera pas mal du tout. Le Nord, Champagne-Ardenne, Lorraine, Morvan, Berry et région parisienne.
Merci Laurent Cabrol et à tout à l'heure.
Ben, si vous voulez.
Europe Matin, le 5-7. Simon Rubin.
Merci d'être fidèle à Europe 1 et au 5-7 pour vous réveiller. Nous sommes le lundi 26 octobre. Bon réveil à vous tous et à vous toutes. Tout de suite un nouveau journal. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Simon, bonjour à tous.
Il est 6h30.
Ils ont énormément testé, ils ont énormément isolé et le virus a beaucoup moins circulé. Eux, ils savent très bien qui a contaminé qui. Nous, on n'a jamais surveillé assez bien.
Ces scientifiques qui plaident pour une autre méthode de traçage des malades du coronavirus en France, le traçage à la japonaise, prisé dans les pays asiatiques. On vous explique. La France qui déplore 52 000 nouvelles contaminations en 24 heures, nouveau record quotidien. Dans ce journal, une journée importante dans le procès des attentats de janvier 2015, l'audition de celui que l'accusation voit comme le bras droit d'Amédi Coulibaly. Et puis un peu d'air en fin de journal, beaucoup même, les grands espaces bretons, normands, très sollicité pendant ses vacances.
Mon invité dans des minutes, le professeur Bruno Mégarban, chef de service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. On parlera évidemment coronavirus. Il est 6h31, bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
52 000 cas de Covid-19 décelés ces dernières 24 heures. Nouveau record de contamination quotidienne en France. La deuxième vague est bien là et les médecins ne l'attendaient pas si virulente.
L'obsession des autorités, c'est de casser les chaînes de contamination. Pour l'heure, en France, on recherche les cas contacts après avoir identifié les malades. Mais certains scientifiques prônent une autre méthode très développée dans les pays asiatiques.
On l'appelle ainsi traçage à la japonaise. Alors de quoi s'agit-il ? Explication Pierre Herbulot.
La recherche du patient zéro. C'est l'objectif du traçage à la japonaise ou traçage rétrospectif. Contrairement à la méthode française, chercher les cas contacts d'un malade, l'idée là c'est de trouver par qui le malade a été contaminé.
C'est un peu comme chercher les ascendants au lieu de rechercher les descendants, voilà.
La stratégie privilégiée en Asie, beaucoup plus épargnée par le virus, raconte l'épidémiologiste Catherine Hill.
C'est remarquablement fait en Corée du Sud, mais ils se sont pris correctement et ils ont énormément testé, ils ont énormément isolé et le virus a beaucoup moins circulé. Et donc, eux, ils savent très bien qui a contaminé qui et qui a contaminé 230 personnes. Nous, on n'a jamais... on n'a jamais surveillé assez bien.
Interrogé sur la question, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se défend.
À chaque fois qu'on peut remonter au-delà de la chaîne de contamination, nous le faisons. Mais ne croyez pas que ce soit quelque chose où il suffit de claquer les doigts ou d'y mettre les moyens. Il y a des réponses que nous n'arrivons pas à avoir et que personne dans le monde n'arrive à obtenir.
Quelle que soit la stratégie, un point fait consensus dans le monde scientifique. Il est impossible de tracer correctement l'épidémie au-delà de 5000 cas journaliers quand la France dépasse largement les 30 000 par jour depuis le début de la semaine.
Et le nombre de malades en réanimation continue lui aussi de progresser. 2575 personnes, indique Santé publique France, pour une capacité totale pour l'heure de 5800 lits. Épidémie tout aussi galopante chez nos voisins européens. État d'urgence sanitaire réinstauré en Espagne. 6 mois jusqu'à début mai. Couvre-feu dans tout le pays, sauf aux Canaries, de 23h à 6h du matin.
Et en Italie, cinéma, théâtre, salle de gym fermées à partir d'aujourd'hui et pour 4 semaines, bars et restaurants doivent arrêter le service à 18h.
La réponse d'Emmanuel Macron à Recep Tayyip Erdogan. Rien ne nous fera reculer. Jamais, nous n'acceptons jamais les discours de haine. Message publié hier soir sur Twitter par le chef de l'État en français, en anglais et en arabe après que le président turc a mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron deux fois en moins de 48 heures hier et dimanche.
Des attaques qui ont conduit aux appels sur les réseaux sociaux au boycott de produits français dans plusieurs pays musulmans. Des fromages, des confitures sont ainsi retirés des rayons de magasins au Koweït ou encore au Qatar.
Le président turc reproche à Emmanuel Macron son récent plan sur le séparatisme mais aussi la promesse que la France ne renoncerait pas aux caricatures comme l'a dit le chef de l'État la semaine dernière lors de l'hommage national à Samuel Paty.
Un assassinat après lequel Jean-Luc Mélenchon avait pointé, selon lui, un problème avec la communauté tchétchène en France. Des propos qui ont fait vivement réagir jusque dans ses propres rangs. Ainsi, le chef de file des Insoumis change de ton, Claudia Bertram.
Jean-Luc Mélenchon regrette d'avoir utilisé le mot « communauté » à propos des Tchétchènes, écrit-il sur son blog. Un mot qui a créé le malaise jusque dans ses rangs. Mais dans la mesure où il y a eu une mise au point, il n'y a pas de sujet, balaye un député insoumis qui martèle. Tout le monde connaît nos convictions. Mais pour un pilier socialiste, tout cela ne suffit pas. On ne peut pas dire qu'il soit au clair avec ces sujets-là, dit-il. Ce qui est notamment reproché à Jean-Luc Mélenchon et aux Insoumis, leur participation à une marche contre l'islamophobie l'année dernière, en présence de personnalités controversées proches du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France que l'exécutif veut désormais dissoudre. Plusieurs ministres et anciens premiers ministres taxent les Insoumis d'islamo-gauchisme. Pour contrer ces attaques, Jean-Luc Mélenchon dénonce le terrorisme islamiste désormais avec des mots particulièrement durs. Un insoumis en est persuadé. Il veut montrer qu'il est ferme. C'est une tactique pour contrer les procès en complaisance.
Le procès des attentats de janvier 2015 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Dernière semaine d'interrogatoire des accusés.
Et aujourd'hui et demain, journée déterminante. L'interrogatoire du seul accusé de complicité des assassinats commis par les frères Kouachi et Hamedi Coulibaly. Il s'appelle Ali Riza Polat. L'accusation vote en lui le bras droit du tueur de l'hypercachère. Chloé Triomphe.
Dès les premiers jours, Ali Riza Polat a donné le ton, impulsif, colérique, intervenant à tout bout de champ. Il a manifestement hâte de s'expliquer. Sa position, comme tous les accusés jusqu'ici, c'est qu'il est, dit-il, innocent, qu'il serait victime de balance, qu'il aurait incriminé pour le faire taire dans une autre affaire de droit commun. Pourtant, Ali Riza Polat, c'est bien celui que l'accusation considère comme le bras droit du terroriste de l'hypercachère. Un qualificatif repris par une enquêtrice et qu'il a littéralement fait sortir de ses gonds au point de menacer la policière à la barre des témoins. Sur le fond, l'enquête a mis au jour un très grand nombre d'échanges téléphoniques avec Hamedi Coulibaly jusqu'à la veille de l'attaque de Charlie Hebdo. 30 SMS la nuit du 6 au 7 janvier 2015. Il est accusé aussi d'avoir participé à la fourniture des armes et au financement du terroriste, bref, d'avoir été présent à tous les stades des préparatifs. Ali Riza Polat, qui encourt la perpétuité, a 2 jours pour s'expliquer avant la confrontation générale entre les accusés. Prévu mercredi.
6h36 sur Europe 1, la suite du journal avec Jérôme Lacroix. Début aujourd'hui de la seconde semaine des vacances de la Toussaint. Et comme cet été, les vacanciers ont envie de grands espaces.
La mer, la campagne, Bretagne et Normandie, très prisées, en témoigne le taux d'occupation des gîtes ruraux. Plus 3 points par rapport à la même période l'année dernière. Caroline Baudry l'a constaté dans l'heure.
Au cœur du parc, du château, quoi.
C'est extraordinaire.
Une chapelle, des tourelles, un spectaculaire bâtiment 16e siècle. Et cette
maison en pierre où vivait le gardien du château, c'est la demeure de Salima et sa famille le temps d'une échappée.
Pour être comme à la maison en fait, le gîte c'est d'être en famille au vert. Par les temps qui courent, c'était pour éviter un peu la proximité dans un hôtel ou autre. Ça fait du bien de s'éloigner du couvre-feu, sortir de Paris et puis des contraintes qui pèsent sur nos épaules depuis un certain temps. Profiter un peu du patrimoine en même temps qu'une bonne balade en plein air, ça fait du bien.
Car derrière le gîte, 22 hectares de jardins et forêts, bien loin de l'appartement familial, raconte Yacine et Lina.
Il y avait aussi un âne et un poney. C'est mieux que l'air de Paris, tu te sens un peu enfermé à Paris. T'es mieux, tu peux vivre et tout. Comme dit maman, je vais revenir ici avec grand plaisir.
Une bouffée d'oxygène essentielle pour cette famille, 5 jours isolés, déconnectés, pour pouvoir oublier un peu leur quotidien parisien.
Oui, ça fait du bien. Et puis le foot, les Lyonnais écrasent les Monégasques 4 buts à 1 en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Lyon ce matin 6e d'un classement désormais dominé par le Paris Saint-Germain.
Et merci Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h30. Prochain journal 7h, ce sera avec Émilie Dez.
Europe 1.
Il est 6h38 et la deuxième vague est là. Le coronavirus, certains médecins le disent, on ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si vite et si fort. Alors comment ça se fait? Quelle perspective? Eh bien on va en parler avec Bruno Mégarban, professeur de médecine intensive réanimation, chef de service réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière. Bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve juste après la pub.
Simon Rubin sur Europe 1.
6h40 sur Europe 1, plus de 52 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures en France. Nouveau record sur le front du coronavirus. Et vous l'avez entendu dans nos journaux, certains médecins infectiologues le disent. Ils ne s'attendaient pas à une deuxième vague si rapide, si forte. Pour en parler, je reçois Bruno Mégarban, professeur de médecine, chef de service réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière. Bruno Mégarban, vous partagez cette analyse selon laquelle on ne s'attendait pas à cette deuxième vague si virulente?
Alors effectivement, on savait que le virus continue à circuler depuis la première vague de mars-avril. Son niveau commençait à remonter progressivement à partir de fin août. Mais c'est vrai que pendant une bonne période, nous avions l'impression que le nombre de contaminations augmentait alors que celui des patients restait plutôt bas. Et puis effectivement, à partir d'un certain seuil, il y a eu une accélération très importante du nombre d'admissions à l'hôpital, en hospitalisation conventionnelle et en réanimation. Et désormais, la croissance est exponentielle. Alors, on avait tous prévu effectivement un rebond de l'épidémie au cours de l'hiver. Probablement, on est surpris par le fait que ce rebond est plus important et plus précoce que ce que l'on avait pensé.
Et alors, qu'est-ce qu'on a raté pour que la situation flambe comme ça?
Alors, bon, tout le monde le dit, effectivement, la sortie du confinement n'a pas été optimale. Il aurait peut-être fallu renforcer les messages de prévention, de sensibilisation et de responsabilisation de la population, passer un été un peu plus contraint. Mais c'est vrai qu'à l'époque, évidemment, ça n'était pas facile, car adhérer à des mesures de prévention strictes alors que l'impression laissait penser que le virus circulait de façon extrêmement bonne n'était pas simple.
On se posait une question là à la rédaction ces derniers temps, et je pense comme beaucoup de Français d'ailleurs sur leur lieu de travail, parce que avec les couvre-feux, il y a des millions, des dizaines de millions de Français qui vont moins dans les bars, qui restent moins longtemps le soir évidemment. Et quand on travaille, on pense tout de suite au déjeuner entre collègues et au lieu de travail. Ça devient aujourd'hui, un lieu de transmission préoccupant.
Tout à fait. On va dire la circonstance principale pendant laquelle on se contamine, c'est lorsqu'on s'assoit face à face avec quelqu'un pendant une quinzaine de minutes au moins, que l'on discute à moins de 1 mètre. Donc typiquement, la circonstance principale, c'est le repas, malheureusement que l'on ne peut pas éviter. Alors que ce soit dans un restaurant, dans une cantine, pendant le travail ou le soir en réunion. Voilà, exactement. Et donc effectivement, c'est dans cette circonstance qu'il faut faire le plus attention. Alors il faut effectivement réduire ces interactions sociales le soir pour éviter des contaminations inutiles. Et puis, lorsqu'on est au travail, eh bien, peut-être manger pas strictement en face à face, mais de façon décalée. Bien sûr, l'idéal, et c'est ce qui va très probablement être désormais de mise, c'est privilégier le télétravail qui n'est probablement pas suffisamment instauré en France.
Quid d'un reconfinement ou de reconfinement locaux ? C'est l'étape suivante vers laquelle on se dirige tout droit ?
Très clairement, le confinement, c'est la méthode la plus radicale pour casser les chaînes de contamination et effondrer le nombre de nouveaux cas pour permettre à l'hôpital de souffler. Maintenant, tout le monde sait qu'évidemment, un confinement plus ou moins strict aura des conséquences sociales et économiques. Et le gouvernement avait choisi ce couvre-feu comme compromis entre les problématiques sanitaires et socio-économiques. Alors, probablement, à mon sens, dans un premier temps, le gouvernement aura recours à des mesures plus strictes de couvre-feu, c'est-à-dire à la remontée du temps de début, probablement vers 19h, à un renforcement du télétravail, à probablement également une restriction sur les EHPAD. Alors, il y a la discussion du port du masque à l'école pour les enfants de plus bas âge, mais l'essentiel, évidemment, si un confinement était décidé, qu'il soit adapté à la situation épidémiologique de chaque territoire. Donc plutôt, on va dire, localisé à une zone voilà, où le virus circule de façon importante et surtout qu'il préserve l'ouverture des écoles et des universités car évidemment, si on était amené à fermer les écoles en plein milieu de l'hiver, ça serait une catastrophe pour les plus jeunes.
Et on le comprend bien. Merci Bruno Mégarban, professeur de médecine intensive réanimation, chef de service réanimation médicale et toxicologique à l'hôpital Lariboisière. Je vous laisse partir parce que vous allez
merci
notamment travailler.
Tout
merci beaucoup.
Exactement. Merci à vous. Au revoir.
Il est 6h46. Bonjour Anis Mbida. Le 5-7, et oui, avec le micro, c'est mieux.
Bonjour Simon.
Le 5-7 continue avec vous et vous allez sauver nos lessives. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Simon Rubin.
6h48 et l'essentiel de l'actualité, 52 000 nouveaux cas supplémentaires de Covid-19 ces dernières 24 heures. C'est un record. Les mots d'Emmanuel Macron, rien ne nous fera reculer. Il répondait hier soir au président turc qui a mis en doute par deux fois la santé mentale du chef de l'État. Et puis en football, Lyon bat Monaco 4-1, 8e journée de la Ligue 1. Et on écoute le monde changer. On regarde vers l'avenir avec vous, Anis Mbida, l'innovation du jour qui pourrait simplifier les lessives. Il s'agit de la première machine à laver où l'on peut mélanger les couleurs sans risque.
Oui, des serviettes rouges mélangées avec des t-shirts blancs.
Oh là là.
Et qui à la fin ne se transforment pas en chiffon tout rose. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le tambour de la machine peut être divisé en plusieurs compartiments. C'est vraiment une idée toute simple. On se demande pourquoi personne n'y a pensé avant. Alors il faut s'imaginer un lave-linge à hublot classique mais dont le tambour peut être segmenté en deux ou en trois avec de grandes plaques en métal. Alors il faudra toujours trier son linge, hein, soit par couleur, soit par matière. Mais plutôt que de faire des lessives différentes, je ne sais pas moi par exemple pour laver les jeans, les pulls et les chemises, eh bien on va pouvoir les mettre tous ensemble sans qu'ils se mélangent parce que chacun va rester protégé tranquillement dans son propre compartiment. Donc on ne fera plus qu'une lessive. Là, on en faisait trois, ce qui fait faire des économies d'eau et d'électricité.
Mais alors si on divise le tambour, ça fait moins de place pour les draps, les couettes par exemple.
Non, parce que les plaques sont amovibles. Donc si on a vraiment besoin de place, eh bien on les enlève et on se retrouve avec un grand tambour classique. L'autre avantage de ces compartiments, bah, c'est qu'ils vont aussi protéger les vêtements les plus fragiles, un peu, vous savez, comme les sachets là, qu'on utilise pour éviter que les fermetures éclair abîment vos petits dessous en dentelle. Hein, je sais que vous y
tenez. J'en ai beaucoup.
C'est une technique qu'on doit à Won Ki Kim. C'est un designer industriel coréen et il est en contact avec plusieurs fabricants d'électroménagers parce que c'est une option qu'on devrait voir arriver sur les lave-linges dès le milieu de l'année prochaine.
Merveilleux. Merci Anis Mbida et à demain. 6h51, l'heure d'ouvrir notre revue de presse internationale et on va démarrer en Algérie. L'Algérie avec Nour Chahin, bonjour.
Bonjour Simon.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous à Alger ?
En Algérie, on parle de l'état de santé du président de la République. Le président Tebboune en isolement volontaire après la suspicion de cas de Covid-19 dans son entourage, titre El Watan, ce qui ne l'empêcherait pas normalement de continuer à exercer ses fonctions, précise toutefois Liberté. Le quotidien indique que malgré toutes les précautions prises dès l'apparition de l'épidémie fin février dernier, le Covid-19 connaît une recrudescence ces dernières semaines en Algérie. Bien que les chiffres de contamination soient bien loin de ce qui se passe en Europe, les quelques 200 cas enregistrés enregistrés quotidiennement depuis quelques jours inquiètent les pouvoirs publics. Pour sa part, le Soir d'Algérie rappelle que la dernière activité officielle de Abdelmadjid Tebboune remonte au 15 octobre dernier, date à laquelle il recevait Jean-Yves Le Drian, le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. En attendant un retour à la normale, les dossiers s'amassent sur le bureau du chef de l'État et on est à quelques jours seulement de la tenue du référendum pour la nouvelle constitution.
Merci Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger. On prend la direction du Caire. Bonjour Ariane Lavrieux.
Bonjour Simon.
Alors de quoi parle-t-on chez vous ?
C'est un appel de près de 300 députés occidentaux venant à la fois des États-Unis et d'Europe qui demandent au président Al-Sisi de libérer les milliers de prisonniers politiques, avocats, journalistes, défenseurs des droits de l'homme. La presse indépendante et les sites arabes bloqués par les autorités égyptiennes relaient massivement cette mobilisation inédite. C'est un avertissement pour le régime, se félicite un responsable d'ONG, au moment précis où se tiennent des élections parlementaires ici, ou plutôt un scrutin sans surprise, puisqu'aucun parti d'opposition n'est autorisé, qu'il soit de gauche ou islamiste. Arabic Post en profite pour rappeler la complaisance de Donald Trump à l'égard de son homologue égyptien, qu'il avait surnommé son dictateur préféré. Mais cela devrait radicalement changer, prévient le site d'information, si Joe Biden, le candidat démocrate, remporte l'élection présidentielle américaine.
Ariane Lavrieux, correspondante d'Europe 1 en Égypte. Et puis on termine en Amérique du Sud avec Aude Villiers-Moriamé. Bonjour.
Bonjour Simon.
Et vous, vous vous intéressez au gros titre au Chili?
Eh bien, c'est la large victoire du oui à une nouvelle constitution. Les Chiliens votaient hier pour décider d'en finir ou non avec le texte actuel qui avait été voté sous la dictature du général Pinochet en 1980. Référendum historique, titre le journal La Tercera, qui affiche en une de son site le décompte des bulletins dépouillés. 78% des Chiliens se sont prononcés pour une nouvelle constitution. Ce référendum avait lieu un an après le début d'un mouvement social sans précédent contre les inégalités dans le pays. Le nouveau texte sera rédigé par une assemblée élue spécialement pour l'occasion. Un scrutin qui aura lieu en avril 2021. Le site de la chaîne Mega Noticias explique la suite du processus. Les élus auront un an maximum pour rédiger une nouvelle constitution qui sera ensuite soumise à l'approbation des Chiliens via un nouveau référendum.
Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. Et on referme donc cette revue de presse internationale.
Europe 1.
Il est 6h53, la météo et le journal de 7h. C'est dans quelques secondes, Mathieu Béliard, qui va entrer dans ce studio. Le 7-9 démarre à tout de suite. 6h57 sur Europe 1. Nous sommes ensemble depuis 5h et le moment est venu pour moi de transmettre le témoin à Mathieu Béliard. Bonjour Mathieu.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien.
Alors
lundi
j'en
matin,
suis ravi. Les auditeurs ont beaucoup de chance de vous avoir. Je vous les transmets.
Eh bien, je les prends avec très grand plaisir et avec délicatesse évidemment.
Bien sûr.
On va raconter l'actualité ensemble. On va se parler de l'actualité. Lundi 26 octobre 2020, soyez les bienvenus sur Europe 1. Vous écoutez Le Monde Changé.